Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
Les effrontés.
Avec Geneviève Petersen. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes en sécurité parce que la tempête s'abat sur le Québec en ce moment. Il y a plusieurs écoles qui sont fermées et les conditions routières se dégradent de plus en plus. Aujourd'hui, à l'émission, plein de sujets. On va revenir évidemment sur le décès tragique de cette adolescente de 13 ans, Océane Boyer. Et son nom, un drame qui touche le Québec au grand complet. Et moi, ça me touchait tellement personnellement ce matin quand j'ai appris cette nouvelle-là, puisqu'elle a le même âge que ma fille à moi, 13 ans. Océane Boyer, donc on parle de ça depuis ce matin. On a pu entendre plutôt à l'émission de Jonathan Trudeau le témoignage des parents de cette jeune fille-là qui a été retrouvée. On n'a pas beaucoup de détails en ce moment. Sur le bord d'une route, elle aurait été atteinte d'un projectile à la tête. Elle aurait été retrouvée aussi partiellement dénudée, ce qui nous amène à croire qu'elle a été violentée sexuellement. Je sais, là, ça commence rough, l'émission. C'est un sujet excessivement difficile. On va parler à une professeure, une ancienne enseignante, en fait, d'Océane Boyer, qui lui a enseigné l'an dernier, l'autre année d'avant aussi. Elle lui a aussi enseigné dans le cadre de cours d'éducation physique, un peu pour savoir comment elle était, cette jeune fille-là, Océane Boyer. On aura aussi Nancy Roy, qui est la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, parce qu'évidemment, la famille de cette jeune fille-là va traverser une épreuve incommensurable, infranchissable. Je lisais beaucoup de parents ce matin sur Facebook qui disaient qu'ils s'en remettraient jamais. Tu sais, comme parents, c'est notre premier réflexe. On se dit toujours, si une chose comme ça arrivait à mon enfant, si on retrouvait mon enfant assassiné ou si mon enfant disparaissait, je me remonterais jamais de ça. Mais la vie est très forte et on sait que, bon, la vie continue. Parfois, ces gens-là ont d'autres enfants, donc force est d'admettre qu'on n'a pas le choix d'aller en avant. Mais comment on se relève de ça? Comment on apprend à vivre? C'est quoi les processus de deuil? Et comment on accompagne aussi ces familles-là? On en parlera avec Nancy Roy. J'avais envie qu'on se parle de nouvelles plateformes aujourd'hui qui est connu quand même depuis, bon, je dirais 2016, plus ailleurs dans le monde, le moins au Québec. Ça s'appelle OnlyFans. C'est une plateforme qui a été mise en place par Instagram pour que les personnalités qui sont très, très populaires sur ce média social-là puissent aller poster du contenu exclusif à leurs super fans, si on veut, d'où le nom OnlyFans. Donc, c'est très simple. Contre un abonnement mensuel, cette plateforme-là, OnlyFans, permet aux personnes qui suivent, les influenceurs de voir du contenu exclusif, du contenu habituellement censuré par la plateforme aussi, photos nues, vidéos aussi, mais pas que. Pas que, parce que je faisais ma petite recherche sur cette plateforme-là hier. Il y a aussi du contenu, comme je le disais, exclusif. Ça peut être du contenu voyage, du contenu qui touche pas nécessairement à la sexualité, mais en règle générale, vraiment, c'est une plateforme qui est utilisée pour partager des contenus sexuels qui sont, bien entendu, interdits sur Instagram. Et là, pourquoi je vous parle d'OnlyFans ce matin, c'est qu'une très populaire star d'Instagram québécoise, Lisandre Nadeau, qui a décidé de s'inscrire sur OnlyFans pour faire de l'argent avec son corps. Elle a décidé, littéralement, et c'est pas moi qui le dis, c'est elle, dans ses stories Instagram, de mettre son corps à vendre parce que, je la cite, « J'ai tellement investi d'argent sur ce corps-là que maintenant, j'ai envie de le monétiser. » Donc, si vous la connaissez pas, Lisandre Nadeau, quand même très, très populaire. 338 000 fans sur Instagram, 429 000 abonnés sur YouTube. Et vraiment, moi, Lisandre Nadeau, je la connais, c'est pas une amie, mais je la connais personnellement parce que quand j'ai écrit le film Fabuleuse, qui est un film qui, en fait, raconte l'histoire d'une influenceuse, avec la scénariste et réalisatrice Mélanie Charbonneau, on en a rencontré quelques-unes influenceurs et Lisandre Nadeau en faisait partie. Et la raison pour laquelle on avait voulu approcher Lisandre Nadeau, c'est que cette fille-là, fait du contenu sur YouTube depuis très, très, très longtemps. Depuis qu'elle a 15 ans, en fait, Élisande Nadeau est dans la jeune vingtaine. C'est une des premières au Québec à avoir vraiment fait de YouTube, si on veut, son principal, je dirais pas son gang-pain, parce que ça a quand même pris du temps avant qu'elle rentabilise ses activités, mais elle a depuis très, très longtemps. Et bon, cette fille-là est devenue très, très populaire. Maintenant, gagne assez bien sa vie. Et c'est drôle, je lui demandais hier, je l'ai texté sur Instagram, je voulais l'entendre ici à l'émission. Puis elle dit, sais-tu quoi? Dis-moi, les médias traditionnels, je crois pas à ça. Je préfère partager mon contenu sur mes propres plateformes. Et la vie lui donne raison parce que, tenez-vous bien, OK? Sa présence sur OnlyFans... une expérience qu'elle qualifie d'expérience sociale, a fait boule de neige en 6 heures seulement. Elle avait 513 personnes qui se sont abonnées à son compte, donc ils ont payé. C'est un paiement mensuel, donc c'est entre 5 et 25 $. Ça peut être plus, mais ça, ce sont les prix moyens. 513 personnes se sont donc abonnées à son compte et ils ont amassé plus de 8 000 US. OK? Une heure plus tard, le montant était passé à 11 000 $ et la dernière fois que j'ai regardé hier soir, c'était rendu à quelque chose comme 20 000 $ US. Et même Lisande Nadeau est surprise de tout ça. Elle s'attendait pas à un tel engouement. Et là, au début, c'est drôle parce qu'elle documente un peu cette histoire-là sur ses médias sociaux et elle dit « Ah, si ça va bien, je vais m'acheter une belle paire de Louboutin. » Tu sais, vous savez, ces souliers à semelles rouges iconiques qui valent entre 500 et 1 000 $ US en moyenne. À la fin, c'était rendu qu'elle allait se payer le tour de l'Europe. C'est ça qu'elle voulait faire. Mais évidemment, Lisande Nadeau, sa démarche, ça ne fait pas l'unanimité. Et là, il faut savoir, tu sais, bon, Lisande Nadeau, je vous l'ai dit, elle est sur YouTube depuis très longtemps. Mais pour ceux qui ne suivent pas ou qui ne savent pas c'est qui, c'est une... Tout le monde, tous les influenceurs, si on veut, ont une espèce de politique éditoriale, c'est-à-dire il y en a qui vont parler de maquillage, il y en a qui vont parler de vêtements, il y en a qui ça va être plus lifestyle. Lisande, elle, son brand, entre guillemets, c'est d'être très ouverte sur absolument tout. Donc, elle a dit les choses comme elles sont. Elle a la réputation d'être la YouTubeuse la plus trash, mais un trash sympathique. Donc, c'est une fille qui aime beaucoup faire le party. Elle parle des épreuves qu'elle traverse vraiment sans filtre. Elle parle de son anxiété, de ses problèmes de consommation d'alcool, de la consommation de médicaments comme des antidépresseurs. Elle documente ses ruptures. Tu sais, c'est le genre de fille qui braille en direct parce qu'elle vient de laisser son chum sur YouTube. On peut en penser bien ce qu'on veut, mais force est d'admettre que ça marche parce qu'il y a 400 000 personnes qui sont abonnées à sa chaîne. Donc, tout y passe. Et Lisande Nadeau, quand même, a un rapport très, très, très ambigu et conflictuel avec son corps, comme nous toutes. Et ça aussi, c'est un de ses sujets de prédilection. Et elle utilise des méthodes d'altération du corps, c'est-à-dire elle s'est fait refaire les seins quasiment en direct il y a quelques années. D'ailleurs, ça lui avait valu moult critiques. On l'avait accusé de faire la promotion de la chirurgie esthétique. On l'avait accusé de banaliser aussi ces interventions-là auprès des jeunes filles. Parce que c'est ça un peu qui dérange dans la démarche actuelle de Lisande Nadeau et aussi dans ses démarches, passées. Elle a eu recours aux injections de lèvres et plus récemment, elle a documenté aussi un processus d'injection dans les fesses. Elle dit que ses fesses l'ont toujours complexée et elle a décidé de subir des injections et là, ses fans attendent de voir le résultat parce que paraît que ça prend 2 mois à faire effet. Donc oui, elle a aussi été vilipendée pour ça. Et il y a quand même un paradoxe que je trouve intéressant chez Lisande Nadeau, c'est que d'un côté, si vous allez voir son compte Instagram, vous allez voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de photos semi-érotiques. Et de l'autre côté, dans ses stories, elle nous parle de ses complexes par rapport à son corps. Mais tu sais, vraiment, c'est un paradoxe que beaucoup de femmes portent en elles. Il y a Marie-Pierre Morin récemment qui faisait une sortie un peu dans le même genre en disant ben je me trouve pas trop belle, mais en même temps, elle fait des photos de maillot de bain puis des photos de lingerie. Donc, je pense qu'on comprend que la jeune femme moderne n'est pas un paradoxe près et je ne veux loin de moi l'idée de juger de cette démarche, mais j'avais envie de parler du fait de monétiser son corps sur une plateforme comme OnlyFans quand on a un public jeune, un public souvent mineur, parce que c'est ce qui est reproché en ce moment à Lisande Nadeau. Puis là, tu sais, bon, je chroniquais hier soir dans le Journal de Montréal sur ce thème-là et juste de lire les commentaires des gens, vraiment, on se demande si c'est de la prostitution, on se demande si c'est éthique, on se demande si c'est moralement acceptable de vendre son corps sur Internet. Puis moi, dans tout ça, je me demande, est-ce que c'est vraiment nos affaires, ce que Lisande Nadeau fait de son corps? Il me semble, en tout cas, qu'un des résultats heureux du féminisme, c'est que les femmes peuvent disposer de leur corps comme elles l'entendent. Mais il y avait, par contre, la partie jeune public. Tu sais, c'est vrai, là, la jeune femme, Lisande Nadeau, est suivie en grande partie par un très jeune public, des personnes mineures, c'est sûr que le premier réflexe, c'est de se dire, est-ce que ça va influencer les jeunes filles? Est-ce que ça va les entraîner sur la mauvaise voie, entre guillemets? Est-ce que ça va banaliser, justement, la sexualité, la pornographie? Puis Lisanne Nadeau a eu une réponse quand même assez équivoque sur les médias sociaux. Je dois dire que je suis assez d'accord avec elle. C'est la responsabilité quand même des parents de surveiller ce que leurs jeunes consomment sur Internet. Elle n'a pas, à prime abord, de responsabilité envers son public. Je comprends, quand on est un modèle, ça vient quand même avec, bon, une certaine responsabilité. Mais Lisanne Nadeau, c'est pas comme si elle était la reine des neiges et que tout à coup, elle s'était transformée en actrice de soft porn, là. Elle a toujours été un peu trash. Elle a toujours parlé d'alcool. Elle a toujours parlé de drogue. C'est-à-dire, elle s'est jamais cachée. Elle nous a toujours présenté ce visage-là. Donc, si t'es un parent et que ton enfant consomme du Lisanne Nadeau, entre guillemets, tu dois savoir à quelle enseigne elle loge et prendre ta décision en conséquence. Et j'avais envie de dire, normalement, les enfants, les adolescents n'ont pas accès à une carte de crédit et c'est quand même la condition sine qua non pour avoir accès aux photos coquines de Lisanne Nadeau. Mais quand même, après avoir dit ça, j'ai quand même voulu savoir, j'ai demandé à ma fille de 13 ans, qui suit Lisanne Nadeau? C'est même moi qui avais suggéré de suivre Lisanne Nadeau à l'époque parce que je trouvais qu'elle avait un discours intéressant aussi sur les influenceurs. Elle dénonçait beaucoup. Tu sais, il y a une pratique chez les influenceurs qui s'appelle le house tour. On montre son intérieur parfait, sa maison incroyable. Et elle et son chum de l'époque riaient un peu de ça. Tu sais, ils montraient leur appart vraiment dégueulasse. Ils disaient qu'ils n'étaient pas capables de vivre de leurs vidéos. Donc, je trouvais qu'elle avait un discours un peu ironique et dénonciateur de cette culture un peu pseudo-authentique et qu'elle dénonçait ce mode de vie-là qui est en fait juste de la pause, tu sais. Mais force est d'admettre, bon, je sais pas si je regrette ma décision, mais ma fille aime beaucoup Lisanne Nadeau. Donc, je lui ai demandé hier, à l'heure du souper, si elle était au courant, premièrement, de cette affaire-là, et sa réponse a été non. Elle n'était pas au courant. Donc, je lui ai expliqué un peu les tenants et aboutissants de la démarche de Lisanne. Et j'ai demandé ce qu'elle pensait de tout ça et ce qu'elle m'a dit, c'est la même chose un peu que je vous ai dit tantôt. Les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps tant qu'elles sont consentantes. J'ai envie de dire amen, victoire du féminisme. Mais quand même, je veux souligner, c'est le mot le plus important dans tout ça, le consentement. Il faut vraiment faire la distinction parce que c'est important. Là, j'en parle souvent de l'exploitation du corps de la femme, de l'image de la femme aussi qui est utilisée un peu partout. Ici, on n'a pas affaire à une femme exploitée. Là. C'est pas une madame, on n'y a pas saisi son passeport, on l'a pas enfermée dans une chambre d'hôtel pour l'obliger à avoir des relations sexuelles ou à tourner des pornos. Là. Les ados, elle le dit, elle fait ça de son plein gré, elle est en parfait contrôle d'elle-même, en parfaite possession de ses moyens. C'est une adulte qui a décidé de faire de l'argent avec son corps au lieu de le donner gratuitement sur Instagram parce qu'on va pas se voiler la face, là. Je pense qu'il y a déjà des messieurs qui se touchent en regardant le compte Instagram de Lisanne Nadeau. Là. Donc, qu'elle puisse monétiser ça, moi, je ne vois pas le mal. Mais est-ce que ça veut dire que j'aimerais que ma fille fasse la même affaire? Ce serait de mentir de dire que oui, pour vrai. Et quand je me questionne d'où ça vient, ben je me dis c'est difficile de sortir un peu de cette dichotomie de la vierge et de la putain dans laquelle j'ai été élevée. Tout le monde, on a un peu été élevé avec cette image-là. Puis c'est aussi quand je vois toutes les insultes auxquelles Lisanne s'expose, j'aurais pas envie que mes enfants vivent ça. Et j'ai demandé quand même à ma fille qu'est-ce que ça lui faisait de savoir qu'une fille qu'elle admire, en guillemets, montre son corps sur Internet. Ma fille du tac au tac m'a répondu « Hey, je serais tellement trop gênée pour faire ça, mais je sais qu'elle va se faire juger. » Et malheureusement, c'est ce que j'ai trouvé triste et intéressant. Ma fille, elle a raison. Lisanne Nadeau, elle se fait juger. Elle a eu des messages d'encouragement, c'est ça, venant majoritairement de jeunes hommes et de jeunes femmes. Mais parmi d'autres sphères d'âge de la population, là, ce que j'ai pu lire, c'est vraiment des commentaires où on la qualifie de petite guidoune, de mauvaise influence. Puis je trouve ça dommage, puis je trouve ça très paradoxal qu'on en soit encore à dénigrer les filles qui se dénudent, qui font du travail, du sexe, alors que absolument toute l'industrie publicitaire est basée sur le corps des femmes. Absolument beaucoup de produits vendent leurs affaires en montrant des femmes aguichantes, des femmes sexy, des femmes dénudées, mais quand une femme prend elle-même la décision de le faire, ah là, là, c'est pas la même affaire. Et c'est très, très hypocrite, à mon sens, de juger une personne qui va monétiser de l'érotisme, c'est-à-dire prendre des photos d'elle nue, alors que l'industrie de la pornographie fait des gonzillards de dollars par année. Tu sais, d'un bord, c'est comme, oh, les belles filles vertueuses qui vont pas trop s'en montrer, on va les marier, mais de l'autre bord, on se touche en pensant aux filles qu'on présente pas à nos mères. T'sais, en tout cas, il y a quelque chose là que je trouve préoccupant. Et une autre chose qui est intéressante de souligner, c'est le modèle d'affaires qui change. Les femmes vendent leur image maintenant, elles coupent les intermédiaires économiques, on passe plus par Playboy, on passe plus par des sites. Et c'est ça qui nous dérange, je crois vraiment au fond, c'est que les femmes reprennent le contrôle économique de leur corps. Et vraiment, moi, je pose la question, c'est quoi la différence entre se vendre un magazine comme Playboy ou sur OnlyFans? C'est un peu la même affaire. Il y a plusieurs vedettes qui ont posé pour Playboy. Marilyn Monroe, Pamela Anderson, Kim Basinger, Madonna, Drew Barrymore, Naomi Campbell. Donc vraiment, beaucoup de femmes sont passées par là sans qu'on les traite de slut comme on fait en ce moment avec Lisandre Nadeau. Moi, je dis, les Instababes, c'est les nouvelles Playmates.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
La reconnaissance faciale, c'est un sujet qui nous inquiète, qui nous préoccupe. Est-ce que, évidemment, il y a des dangers pour la vie privée? J'aurais tendance à répondre que oui. Et là, il y a Bell qui cherche à commercialiser un outil capable d'identifier, de surveiller des milliers de visages à la minute. Et on a appris cette semaine, en plus, que des pirates informatiques ont eu accès à la liste de clients d'une entreprise américaine se spécialisant en reconnaissance faciale. Je me suis dit que ça serait une bonne occasion d'avoir une petite discussion avec Éric Parent, PDG d'Eva Technologies, une entreprise qui œuvre évidemment en cybersécurité. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Écoute, on dirait qu'à chaque fois que je t'ai à l'émission, c'est jamais des bonnes nouvelles. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On t'aime quand même. Écoute, je veux juste comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe avec Bell en particulier, parce que le sujet de la reconnaissance faciale est largement discuté depuis quelques temps. On sait qu'il y a des centres d'achat ici en Amérique du Nord qui ont conçu des outils, si on veut, pour monitorer les clients, mais ça sème toujours la controverse. Et je me demande pourquoi une entreprise croissante comme Bell veut vendre aux entreprises un système de reconnaissance faciale comme ça?
Bien, tu sais, c'est un peu le même phénomène en cybersécurité. Hein?
Ouais.
Du jour au lendemain, la cybersécurité est très importante. Fait que tout le monde commence à dire que ce qu'ils en vendent. Là. Fait que tu vas finir par aller acheter ta voiture, puis ils vont dire qu'ils sont experts en cybersécurité.
J'aime Bell, ton cynisme.
Non, ça arrive vraiment, c'est opportuniste au bout. Là. C'est même, il y a des arnaques. En tout cas, il y a un paquet de problèmes que ça cause. Mais là, dans le contexte de Bell, Bell a déjà une clientèle assez vaste. Alors, ça devient un trend, ça devient une chose populaire de parler de ce genre de technologie-là. Alors, probablement que ça devient intéressant d'un point de vue affaires de dire, ben on a déjà une clientèle, si on veut, en otage. Là. On a une longue liste de clients. Alors, on pourrait sûrement utiliser notre pouvoir de marketing et notre carnet d'adresses de clients pour vendre cette technologie.
C'est épouvantable. C'est un peu la même stratégie qu'utilise Facebook par ailleurs au sein des entreprises. Et là, juste pour que je comprenne bien, comment ça marche cette technologie-là? Pourquoi des entreprises peuvent avoir besoin de ce type d'outil-là maintenant, aujourd'hui?
Bien, c'est sûr que... moi, pour être honnête, je trouve ça quand même cool comme technologie dans le bon contexte. Fait que je vais donner un exemple. Si tu vas dans un casino et tu as un problème de jeu puis tu es en train de perdre ta chemise, ben tu peux t'enregistrer sur une liste, là, une blacklist, et puis eux peuvent utiliser ce genre de technologie-là. Fait que quand tu vas rentrer à partir du stationnement, ils vont déjà savoir que tu n'as pas d'affaires là, puis ils vont peut-être pouvoir intervenir puis peut-être t'empêcher de continuer à perdre ta chemise. Fait que dans certains contextes, ça a bien du sens. Dans d'autres contextes, évidemment, c'est quand on le met dans un contexte commercial, on sait très ce qui s'est passé avec Facebook et toutes ces compagnies-là.
Ouais.
Eux se sont mis à partager, on met des termes cute, là, on va dire des metadata, des choses de même, mais au bout de la ligne, c'était donné. Ils sont mis à partager ces choses-là ensemble via l'entremise d'une autre entreprise, mais ça revient à la même chose. Ils partagent ces données-là, réussissent à récolter tes habitudes d'achat ou n'importe quelle autre chose qui vient figurer. Puis là, bien, c'est sûr que ça vient toucher la vie privée, puis c'est un peu plus dérangeant.
Bien, c'est ça, parce que c'est toujours l'argument un peu qu'on nous sert, parce qu'on est dans une psychose collective en ce moment par rapport à la sécurité. Donc, c'est toujours un peu cet aspect-là qu'on met de l'avant pour nous faire passer, si on veut, la pilule de la reconnaissance faciale. C'est sûr que moi, quand tu me dis, bon, on va installer ces technologies-là, par exemple, dans les aéroports, dans des lieux sensibles, entre guillemets, même au casino, ton exemple est très, très bon pour protéger les gens contre eux-mêmes, pour détecter aussi les comportements suspects, surveiller aussi certains individus. Tu sais, parce que cette technologie-là, quand même, peut nous permettre d'agir plus vite, tu sais, puis d'éviter certains drames. Personne ne peut être contre ça, mais c'est toujours l'argument qu'on nous sert. De l'autre côté, ça peut être excessivement pernicieux. Éric Parent, je lis disait, par exemple, qu'il y avait un écueil par rapport aux outils de reconnaissance faciale lorsque, par exemple, on essaie d'analyser des images de personnes à la peau foncée. Ces technologies-là auraient de la misère, ce qui augmente le risque de les confondre, par exemple, avec un suspect qui serait déjà fiché. Là, ça peut donner lieu à toutes sortes d'ennuis, aussi des situations qui sont discriminatoires.
Entièrement d'accord. C'est là qu'il faut qu'il y ait des contrôles. Fait qu'avant, disons, d'accuser quelqu'un, il faut avoir plus qu'une source de confirmation.
Ben oui.
Mais de l'autre côté de la médaille, un humain qui marche sur la rue pourrait également avoir la même difficulté et puis arriver à la mauvaise conclusion finalement. Puis fait qu'il faut faire attention aussi quand on compare. Ça marche des deux côtés là. Fait que oui, si un système comme ça va peut-être avoir de la difficulté avec certaines ethnies puis des choses de ce genre là, mais l'humain également peut avoir ce problème là. Puis le but de la reconnaissance faciale, c'est bien plus de raffiner ça puis de le rendre aussi bon ou un peu meilleur qu'un humain. Le problème revient toujours quand même sur le partage d'informations.
Ben oui.
Qui va partager l'information et qui va avoir accès à l'information? C'est facile de dire que le gouvernement aurait toutes les bonnes raisons de le faire, disons, dans un contexte de sécurité.
Ben les policiers le font, mais c'est balisé quand même beaucoup, là.
Oui, mais la réalité, c'est que les politiciens et puis l'argent mènent le monde. Alors, c'est pas des gens qui sont nécessairement éthiques et morales. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des abus. Alors, c'est pas parfait comme si on l'écrit dans un roman, là.
Bien, on se croirait dans le roman de George Orwell, 1984. Et parlant de dystopie, tu sais, on a parlé aussi de la Chine, où est-ce que les systèmes de reconnaissance faciale sont très, très populaires. On se sert de ça carrément pour évaluer la qualité des citoyens, c'est-à-dire si tu traverses à la lumière rouge, tu vas perdre des points, tu n'auras pas accès à certains avantages citoyens. Je veux dire, est-ce qu'on va vraiment se rendre là? Parce qu'en Chine, c'est déjà le cas, c'est excessivement inquiétant.
Bien, c'est sûr qu'on va graduellement, avec ce genre de contrôle-là, on va finir par réaliser qu'on devient juste des ingrédients dans un très vaste écosystème. Les Chinois sont des esclaves un peu dans leur propre pays, là,
ouais.
de toutes ces choses-là. Alors, ils sont là pour faire vivre l'économie, et puis ils sont un ingrédient. Il ne faut pas qu'ils pensent que le pays est là pour eux. Là. C'est vraiment pas le cas.
Bon, la semaine dernière, les commissaires de la Commission à la vie privée au Canada ont fait état de leurs préoccupations croissantes quant à l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ça a quand même déclenché une enquête nationale sur l'une de ces technologies. Là, je pense que ça s'appelle Clearview AI. Ça, c'est utilisé par des centaines de corps policiers, dont certains Canadiens, là.
Oui, absolument. Encore une fois, le problème avec ça, c'est qu'on dirait qu'on a toujours le réflexe de déclencher le bout qu'on devrait y penser. Là, ben
trop tard, tu veux dire?
Ben oui, c'est ça. Ça fait longtemps que c'est déployé, ça fait longtemps que c'est utilisé. Puis là, d'un coup, on se dit, c'est bizarre, cette affaire-là.
Mais pourquoi on se réveille là, Éric?
Ben, je pense que c'est un manque un peu de connaissance. Tu sais, ceux qui devraient réagir sont pas au courant, ils sont mis au courant en retard. C'est quand il y a des gens comme toi ou moi qui va peut-être le souligner, puis qui voudraient que c'est ça cette affaire-là. On réalisait pas que c'était rendu aussi présent. Et puis, fait qu'il y a un retard. La technologie c'est un peu toujours de même. La technologie avance très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'argent d'associé avec ce genre de technologie-là. Et puis où qu'il y a de l'argent, ben il y a du marketing. Où qu'il y a du marketing, il y a des gens qui l'agitent.
Oui, puis Dieu sait qu'ils veulent nous vendre toutes sortes de choses. Puis on est prêt à passer par beaucoup de processus, là, je pense, à tous les assistants vocaux. Mais, tu sais, Éric, on écoute tout ça, on voit ça aller dans les médias, on en parle ensemble, mais, tu sais, à la fin de la journée, moi, comme citoyenne, j'ai pas l'impression d'avoir tant de pouvoir, tu sais, par rapport à tout ça. Tu sais, je peux rien faire pour empêcher ça. Je peux rien faire pour empêcher la reconnaissance faciale d'entrer dans ma vie. On se sent bien impuissant.
C'est bien vrai, c'est sûr que la masse ensemble, mais ça prend un mouvement pour y arriver. C'est pas facile là, d'avoir de l'attraction, surtout qu'on parle de lobbying avec des millions et des millions de dollars dans ces industries-là. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Ça nous prend quand même des entités qui vont protéger les citoyens, là, que ce soit l'Office de la protection du consommateur et autres, toutes les choses qui touchent la vie privée. C'est toutes des entités qui vont devoir prendre de plus en plus de place, là.
Ben oui, puis en même temps, ça va être utilisé de plus en plus partout. Est-ce que je vais m'empêcher d'aller à l'épicerie, d'aller au centre d'achat? Parce que ça sera aussi utilisé, par exemple, pour gérer les files d'attente, rendre le service à la clientèle beaucoup plus efficace. À un moment donné, si on veut éviter d'être fiché, d'être surveillé, qu'on vende nos informations, j'ai l'impression qu'on ne pourra plus sortir de chez nous.
c'est sûr que c'est drôle quand tu dis ça, là, c'est que c'est tellement de même qu'ils nous vendent les idées, parce que c'est génial.
Est-ce que je t'endoctrine, c'est ça que tu me dis?
Ah non, mais c'est vrai, mais c'est juste que, tu sais, dans la colonne, que les affaires cool que le monde va aimer,
oui, c'est
la
ça.
File d'attente va être plus courte. De l'autre côté, ils vont savoir combien de millisecondes que tu as resté devant telle allée, puis que tu regardais tel produit, puis que tu avais une tendance vers la couleur mauve.
Là là.
Fait que c'est ça le problème. Puis il y a d'autres, il y a plein d'autres combien qui le font déjà, là, qu'ils traquent ton téléphone cellulaire, ils vont faire des différents trucs finalement pour comprendre que t'es dans leur commerce.
Mm.
Et puis si ça donne que t'es un membre du commerce, puis t'as déjà l'application sur ton téléphone, ils peuvent t'envoyer un coupon rabais quand ils voient que tu t'en vas vers la porte puis t'as pas fait.
On est manipulé, c'est ça que j'aime pas. C'est,
ben oui,
c'est qu'on s'en rend pas compte, puis on nous enjoint à avoir certains comportements alors qu'on se pense libre d'action et libre de nos choix. C'est ça qui est préoccupant. La solution, Éric Parent, c'est de tous et toutes aller vivre en forêt et de jeter notre cellulaire au bout de nos bras.
On va se tenir de même un jour.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, Éric Parent, PDG d'Eva Technologies.
Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
Mathieu Bugarici, féministe assumée.
Ouais.
Je pensais qu'on avait jeté au vidange ce promo-là.
Ben, tu sais quoi? Moi, je dirais même, Jen, puis la semaine passée,
pourquoi
j'ai entendu
que Dave. Pas féministe enragée.
Non, attends, j'ai mieux que ça quand je commence ma chronique. Comment ça se fait que moi, j'ai pas de thème quand Dave Morgan en a un? Je me plains à micro ouvert aujourd'hui, là. Je veux mon
Mathieu
thème.
Mathieu est jaloux?
Ouais, oui, ouvertement. Hein, je m'en cache absolument pas. Mais puis juste avant de commencer le délire aujourd'hui, parce que ça va être un délire, on est
attends,
dans le.
Attends, ça a commencé dans le. Attends, on va faire du potin un peu, là. Nous deux, ça a commencé dans le stationnement de Cube Radio hier soir.
Oh, tellement, puis c'est, on va-tu vraiment parler de ça aujourd'hui?
Ouais, ouais.
Bah, là, je viens de t'entendre dire en ondes live, en tout cas, puis t'avais quasiment le sourire en coin que t'as suggéré à ta fille de suivre un compte Instagram d'une fille qui vend la photo de ses seins puis de son cul.
Non, mais c'était avant qu'elle fasse ça.
Elle le faisait déjà. Si tu fouilles son compte Instagram, elle devait pas charger, mais elle le faisait avant.
Ouais, mais moi, ça me dérange pas, ça.
Non, pour vrai?
Non. Moi, j'ai pas de problème. Je trouve ça assez misogyne, ce que tu dis en plus en ce moment.
Tu trouves, bah ouais?
Bah oui, qu'est-ce que ça fait qu'elle vende ses seins et son cul?
Ah, ça fait absolument. En fait, si c'est plus pathétique les gens qui vont payer pour aller le voir quand tu l'as déjà presque gratuit sur Instagram.
Ben non, attends, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de vraiment intéressant parce que hier, on a eu la discussion sur justement les femmes qui vendent des photos d'elles nues sur Internet parce que, tu sais, on a accès à beaucoup de porn gratuite, on va pas se le cacher.
Ben.
Mais il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, puis je vais le nommer, là, c'est Sébastien Ravary, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un writer d'humour. Okay? Il m'a dit, payer pour voir des photos de Lisanne Nadeau, c'est un peu comme payer pour voir des photos d'une fille sur qui tu fantasmais au secondaire. C'est-à-dire les filles que tu vois sur Internet, tu connais pas ces filles-là. Puis c'est comme d'avoir accès à des photos de la voisine. T'sais, on a l'impression de la connaître, puis c'est impossible de l'avoir nue.
Tout à fait.
Fait qu'il y a le côté enfant gâté. On peut pas supporter de pas l'avoir tout nu. Fait qu'on va être prêt à payer pour le faire parce que c'est une personnalité publique, entre guillemets. Je trouvais ça intéressant.
Ça l'est.
C'est peut-être la raison que. Tu sais, moi, est-ce que je paierais pour voir des photos d'une femme nue que, tu sais, que j'ai aucune idée c'est qui? La réponse, c'est non. Mais si, mettons.
Jusqu'à temps qu'on tombe sur qui tu fantasmes quand t'étais jeune.
Non, mais mettons, si tu veux payer pour voir une photo de moi nue, juste par curiosité, peut-être tu paierais. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, tout à fait. Jusqu'à temps qu'on tombe sur la bonne personne.
C'est ça.
Fait que ça touche tout le monde à un moment donné. Puis dans son cas, ça doit être autant des filles qui ont payé que des gars.
Oui, puis il y a des filles qui ont payé pour l'encourager.
Absolument, j'en doute pas. Je trouve ça pathétique. Surtout une journée avec le drame qu'on vient d'apprendre avec la petite fille, c'est de 13 ans qui s'est fait assassiner. Wow! Puis là, on va parler d'astrologie après. Je dis, moi, j'ai juste
mais c'est ça, une émission de radio. Ouais. Tu sautes d'un sujet à l'autre. Mais parfois, c'est un peu awkward.
Ouais, mais tu sais que je suis sensible. Je suis un artiste.
Ben,
ça m'atteint. Puis je veux juste envoyer un troc d'amour à toute la famille. Puis tu sais, je pense à ma fille. Puis je pense à mes nièces. En tout cas.
Mais je pense qu'on a toutes et tous le même réflexe.
On
mais là, on parle d'astrologie.
Ouais. On est dans le léger, OK? On va être dans le léger.
Ça, non, mais ça. Une journée lourde comme aujourd'hui, ça fait du bien, un peu, pour vrai.
En fait, ça donne peut-être bien.
Ouais,
c'est juste que je me sentais mal de l'affronter.
Non,
raison.
Non, mais on l'a dit, là.
Mais tu sais quoi? Puis on ne pourra pas faire le tour, évidemment, on n'a pas le temps. Puis c'est assez complexe, l'astrologie. Puis je ne vais pas aller dans la technique parce que je ne la connais pas. Mais pour moi, l'astrologie, c'est comme séparer un genre de trois catégories. Les gens qui la consomment. Tu as les gens qui trippent là-dessus, qui jurent que par ça.
Ouais.
T'as les gens curieux.
Ouais, on lit tout notre horoscope dans le journal, si on tombe dessus. Là.
Mais t'as les gens curieux qui vont prendre ce qu'ils veulent.
Ouais.
Mais t'as aussi les frustrés qui détestent ça, puis qui détestent les gens. Puis je me suis dit, en exemple, j'étais un peu passé par les trois étapes dans ma vie. Puis je t'explique, c'est quelque chose de très vieux, j'imagine. Tu le sais que ça a 3000 ans, puis que c'est, ça se fie aux étoiles. Puis j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce que ça écrit dans le dictionnaire. L'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations célestes. là j'étais brûlé.
Mais c'est fou. Non, mais ici, on, des fois, on reçoit Ginette Blais qui est astrologue, puis elle fait d'ailleurs l'horoscope sur le site de Cube Radio. C'est drôle, puis c'est très, très populaire. Tout le monde parle contre l'horoscope, mais tout le monde le lit et les chiffres de Ginette nous démontrent bien.
Ouais.
Mais ce qu'elle dit, c'est qu'avec les nouvelles connaissances en astronomie, plus ça avance, eux, ils doivent s'adapter à ça. C'est plus les mêmes calculs.
Oui, puis en fait, c'est ça. Puis là, on aura peut-être d'aller là. J'ai découvert ça justement.
Là,
c'est
tu veux nous parler d'une nappe, c'est ça qui arrive.
Ouais, en fait, je vais arriver à ça, mais juste avant, c'est qu'il paraît que depuis une centaine d'années, c'est même plus vrai l'astrologie parce que parce qu'on est désaxé puis on est un mois en retard supposément sur le calendrier.
C'est pour ça que Mercure rétrograde tout le temps.
Ben Jen, quand j'étais jeune, c'était le Journal de Montréal chez nous, puis moi je faisais partie du groupe qui croyait pas trop en ça mais qui lisait parce que prenait ce que ça y tentait. Moi c'était l'amour puis le cash. Je voulais juste savoir
c'est vrai qu'on lisait tout le temps ces sections là.
Oui, puis je changeais ma journée en fonction de ça. Je lisais ça le matin puis je la changeais en fonction. Écoute, j'ai pas rencontré l'amour à cause d'astrologie, mais j'y trouvais mon compte parce que je prenais ce que j'aimais dedans puis j'en faisais ma journée avec ça. Ça, c'est, j'étais jeune. Pour moi, c'est comme le premier groupe. Tu sais, on lit ça, comme tu dis, de travers, puis on prend ce qu'on veut, puis on trouve ça cool. Mais à un moment donné, puis là, j'ai rien contre la madame, là, je vais name dropper. J'ai rien contre la madame, mais à un moment donné, est apparue dans ma vie, de moi, de personne qui consommait l'astrologie, est arrivée Jojo Savard. Pour moi, ça a comme tout. Ouais, moi, quand je dis le nom, c'est comme les Lulu.
Oui, les Lulu blondes platine.
Puis je pense au LSD. Je sais pas pourquoi. Je l'imagine.
Oui, c'était fucké. C'était une émission du soir, là, un moment très tard. Là, et là, 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 là.
Ben là, à ce moment-là, j'ai balancé dans l'autre groupe.
Ouais,
dans le groupe qui détestait ceux qui disaient l'horoscope.
Ça faisait un peu charlatan.
Ben ça faisait un peu fou. Puis là, les années ont passé. Puis là, les fameuses applications sont arrivées. Mais juste avant, il y a les mimes. Les mimes d'astrologie. Moi, tu sais, je parle souvent de ma blonde. Ma blonde, elle tripe sur ces affaires-là. Puis elle m'en envoyait plein. Puis souvent, c'est quand même assez précis. Puis souvent, c'est vraiment drôle. C'est comme si l'astrologie, pour moi, était rendue de l'humour où je peux avoir du fun.
Ouais.
Là, j'arrive au drame, c'est-à-dire l'application. Puis là, il y en a sûrement plein. Il y en a un tas. Moi, c'est CoStar. Maintenant, elle m'a dit,
abonne-toi. Tu m'as forcé à m'inscrire à ça. Hier soir, je l'ai faite, là. Je me suis inscrit à CoStar. C'est une application d'astrologie, mais il y a plein de médias américains qui en ont parlé, là. C'est tout assez bien fait, là.
Wow. Mais en fait, puis je pense que là, si on veut arriver à notre point, là, d'emblée, je dirais aux couples, faites ça en couple. Ce qui est le fun. Moi, l'application, juste pour moi, je ne la prendrais pas. Je l'ai pris parce qu'on est connectés, moi, puis ma blonde ensemble.
Oui, parce que le principe, c'est que tu rentres ton nom, évidemment, ta date de naissance, ton heure de naissance. Après ça, tu peux faire des liens avec soit avec qui la personne avec qui en couple, mais aussi avec des amis. Si tu peux voir les atomes crochus ou les atomes moins crochus.
Mais tu peux dire les cohérences parce que moi, j'aurais dit ça va être complètement incohérent. Puis non, parce que là, ce qui arrive, c'est que là, ça me pop. J'ai ouvert la notification puis ça pop dans mon téléphone. Puis là, je vois ce que ça dit par rapport à moi puis ma copine. Ça marche quasiment tout le temps.
Mais là, moi, aujourd'hui, j'ai regardé pour moi, parce que moi, j'ai envoyé une demande à mon chum pour qu'il se lève. Il m'a promis qu'il allait le faire. Je vais t'en parler.
Oh yeah!
Oui, là, j'ai dit, inscris-toi au site d'astrologie en direct. Il m'a dit, oui. Mais moi, je l'ai fait pour moi et je lisais mon horoscope personnel. C'est des descriptions qui sont assez longues et c'est très croissance personnelle.
Ben
pour
oui.
vrai, là,
ben
oui. ça me parlait.
Tu sais quoi?
Je trouvais que ça marchait. Là, c'est ce qu'il me disait aujourd'hui, telle affaire.
Puis, ça me fait la même affaire, ça me parle, puis je venais de transposer Jojo Savard à là. Fait que tu sais, j'ai lissé ça avant d'y arriver. Puis là, je lis ça, puis j'ai du fun, puis je vais même l'avoir à l'app.
Ça t'aide-tu à désamorcer des situations? Mettons que c'est marqué, genre, aujourd'hui, c'est pas une super bonne journée au niveau de la communication. Si tu vois que t'es sur le bord de pogner avec ta blonde, tu peux genre juste faire, hey, le site le dit, là, on va pas se laisser faire.
C'est tellement vrai. Puis là, c'est le gars que sur sa pochette de téléphone, il met ses mots d'un biscuit chinois. Je suis quand même assez léger là-dedans. Mais
votre sourire séduisant vous protège. T'es tellement con.
puis tu sais-tu quoi? Oui, mais je le mets là, puis je le lis. Je le lis, puis ça me fait sourire.
Il y a un phénomène quand même qui est largement documenté pour ce qui a trait à l'astrologie, la voyance et tout ça. C'est le phénomène de la suggestion. C'est-à-dire que ça soit vrai ou pas,
exact.
on peut se laisser influencer par des prédictions et faire que ça va arriver par le pouvoir de la suggestion. Et c'est vraiment documenté et ça fonctionne pour vrai. Donc, oui, ça peut désamorcer des situations ou en créer.
C'est pour ça que je la lis le matin.
Tu sais, ça dit, mettons, tu vas rencontrer une personne, je sais pas moi, d'un autre pays. Puis là, tu vas tomber éperdument en amour. Fait que là, on dirait que toutes les personnes des autres pays, tu d'un coup, tu te mets à regarder d'un autre œil. Tu comprends ce que je veux dire?
Ben 100%.
T'attends.
Mais en fait, c'est que tu peux provoquer. C'est comme du mindfuck, si tu veux. On se convainc que les trucs peuvent arriver.
Moi, je suis très sceptique. Puis j'ai fait un article sur les voyantes, les meilleures voyantes du Québec. J'ai encore des courriels par ailleurs pour me demander leur numéro, je les donne pas, je vous le dis. la plupart des affaires qu'ils m'ont dites se sont avérées et Ginette Blais m'avait fait ma carte du ciel suite à son passage à l'émission ici.
Okay.
Puis vraiment, je suis très, très sceptique, je te le jure. Là. Ouais, fait que j'ai tout retranscrit, puis elle m'a envoyé un résumé et je peux vraiment cocher les choses au fur et à mesure qu'elles arrivent avec des dates. Elle donne des dates, puis ça arrive tout. Je sais pas comment elle fait.
En terminant, là, tu sais-tu où je te dirais où l'app est le plus incroyable?
Non.
C'est même arrivé aujourd'hui. C'est vraiment ironique que ce soit que ça popait aujourd'hui dans mon téléphone. C'est finalement, quand je les vois pas, les mentions, je les manque, ma blonde devait être certaine.
Oui,
elle fait des screenshots, oui, puis elle me les envoie.
Oh my God.
Puis aujourd'hui, ce que ma copine a reçu, c'est Love your boyfriend and make love to everything.
Oh my God! Ça s'appelle CoStar.
Ça s'appelle CoStar.
Pour vrai, aller télécharger ça. Ouais. C'est une application vraiment intéressante. Ouais. Puis même si on ne croit pas à l'astrologie en tant que telle, ça peut vraiment, et vraiment, je le dis, là, susciter des discussions intéressantes entre amis ou entre amoureux.
Tu t'abonneras à moi, je m'abonne à toi.
Oh mon Dieu, je ne veux pas voir si j'ai les atomes crochus. J'ai peur! Merci, Garici. Merci. Je te promets un jingle dans les prochaines semaines.
J'aime ça.
Les effrontés.
Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effrontés.
Le mythique club montréalais de danseurs, le 281, fermera ses portes prochainement. Et je suis avec Annie Delisle, le propriétaire et tenancière du 281. Bonjour Annie.
Bonjour Geneviève.
Comment tu te sens?
Ben là, je suis dans
un tourbillon. Oui.
Je suis happée. Mais ça va. Je peux comprendre que c'est une nouvelle qui fesse, pour faire un jeu de mots ordinaire.
Non, c'est un bon jeu de mots, bravo.
Non, mais c'est parce qu'on l'a fait hier.
Oui, on peut continuer.
Non, mais je peux comprendre que la nouvelle, mais je m'attendais jamais à ce tourbillon-là quand même.
Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment surprenant? Parce que ça fait 40 ans que le 281 opère. C'était à ton père, toi, t'as repris ses activités. C'est une véritable institution. Les gens sont très attachés à cette marque-là, entre guillemets.
Oui, bien, exactement, tu viens de le dire, ça fait 40 ans. C'est une institution montréalaise, c'est vrai. Je trouve qu'on peut, au lieu de dire « Ah, c'est triste, ça ferme », on va célébrer les 40 ans de succès, puis on va fêter notre 40e anniversaire en avril. On travaille là-dessus à temps plein en ce moment pour avoir un beau party, puis bien clore notre histoire le 5 septembre 2020.
Mais en même temps, je te sens émotive un peu d'évoquer cette fermeture-là. C'est la fin vraiment de quelque chose. Pourquoi ça ferme?
En fait, pardon, je suis propriétaire de la bâtisse et j'ai accepté une offre. Il y a quelqu'un qui achète la bâtisse. Je connais pas le projet qui s'en vient, mais j'ai un doute. Là. Je m'attends à un projet immobilier puisque l'acheteur nous a demandé de quitter. Là, on parle de 3 commerces plus les locataires résidentiels. Donc, on doit quitter.
Puis toi, ça t'est pas venu à l'idée de déménager?
Oui, c'est une bonne question. Mais j'ai déménagé. C'est moi qui ai fait le déménagement en 2003.
Oui, parce qu'avant, c'était où le 281 avant d'être
au 281 Sainte-Catherine-Est, exactement. Oui. À l'époque, j'avais 33 ans, j'avais de l'énergie, la fougue. Et je sais ce que ça représente comme énergie de déménager à nouveau. Là, je vais avoir 50 ans la semaine prochaine. T'es un petit peu fatiguée. Puis la vie de nuit, c'est pas facile.
T'es fatiguée de ce mode de vie-là?
Oui, absolument. Mais ça fait déjà un petit moment que je réfléchis à ce qui va se passer. Hey, je vais avoir 50 ans. Qui va arriver.
Ouais.
Ça fait à peu près 6-8 mois que je ne vais plus beaucoup le soir. J'essaie de me ménager un petit peu.
Mais tu peux faire ça parce que, il y a une télé-réalité où on pouvait un peu voir le quotidien de comment ça se passait au 281. Puis je te sentais très présente.
Absolument.
Je sentais qu'il fallait que tu sois là aussi.
Oui, bien, tu sais, ils disent quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est, ben, tant mieux si les souris dansent.
Mais parle-moi-en des souris, justement.
Non, mais j'ai un directeur général extraordinaire.
Ouais.
Qui fait un bon travail, qui m'a permis de voyager dernièrement, qui m'a permis de prendre un certain recul. Mais c'est sûr que quand je suis là, je vois tout le temps 2-3 détails. Des fois, je leur tombe ses nerfs. Peut-être c'est mieux que je ne sois pas trop là, finalement.
Oui, mais en même temps, je sais pas, là, c'est peut-être moi qui ai un préjugé. Tu sais, quand on parle de danse, on a une image de party, puis ça, je pense que c'est correct. Mais justement, on se rend compte un peu, quand on s'intéresse un peu plus à cet univers-là, que c'est des gens qui sont excessivement... En tout cas, ça demande une discipline incroyable de tous les instants.
Mais c'est plein de préjugés, là, je te vois ça d'en face.
Oui, oui. Mais moi, je suis jamais allée. Je vais être super honnête avec toi. Là.
Mais
j'ai jamais mis les
juste
pieds.
Au 5 septembre.
Mais là, je pense qu'il va falloir que j'aille. Pour vrai, ça m'a jamais attirée.
Ben, je peux comprendre tout ça, mais c'est probablement pas ce que tu penses.
Ben, explique-moi, c'est comment... Qui va là?
Depuis 40 ans, ça a beaucoup changé. On est vraiment devenu un cabaret érotique dédié aux femmes. On fait des numéros de 3 minutes 30, 4 minutes toute la soirée. Donc, c'est sans fin.
Mais les femmes veulent voir des pénis?
Moi, je dirais que depuis au moins 10 ans, là, j'entends la première raison pour laquelle les femmes viennent, c'est parce qu'elles se retrouvent entre elles, elles s'amusent. Il n'y a pas de gossous pour les harceler.
C'est un safe
Personne
space.
Va mettre du GH dans ton verre, GHB dans ton verre.
Oui.
Les femmes savent qu'elles sont bien, s'amusent. C'est la première raison. Après, les pénis, c'est secondaire.
Vraiment? Parce qu'ils ont toutes qu'une shape, les gars. Là. Ils s'entraînent, ils mangent.
Ben,
ils ont
les abdos dans la liste qui arrive avant les pénis.
Ils veulent voir des... Oui, qu'est-ce qui est important pour les femmes? Mais qu'est-ce qu'elles aiment?
Ça aussi, avec le temps, ça a changé. Quand on regarde les photos des années 80, les gars avaient vraiment le torse très, très poilu, des petits biceps. C'était vraiment une autre affaire. Dans les années 90, sont arrivés les gars beaucoup plus gros, plus... bodybuilder.
Ouais.
Et puis depuis, je dirais encore une fois, 10 ans, on veut avoir des gars athlétiques, découpés, symétriques. Et la mode est vraiment aux abdos. C'est vraiment ça.
Autant
ça a déjà été les biceps, ça a déjà été les pectoraux. Là, c'est les abdos depuis un bon moment.
T'évoques, Annie, depuis le début, le changement. T'as dit dans l'article du Journal de Montréal que j'ai lu sur la fermeture du 281 que c'était rendu moins payant aussi qu'avant opérer un club de danseurs. Pourquoi?
C'est pas moi qui ai dit ça.
C'est qui? Ah non, c'est le le président de l'Union des tenanciers de bar du Québec. Mais c'est-tu vrai, ça?
Bien, nous, on est les seuls au Canada à faire ce qu'on fait. Ça
mais
roule encore.
Mais t'as-tu remarqué, mettons, qu'à force des années, il y avait des changements, il y avait moins de fréquentation?
Mais c'est clair que quand mon père a ouvert en 80, c'était nouveau. Les femmes ont perçu ça, j'ai l'impression, comme une revanche. Il y avait les danseuses. Là, on arrive avec les danseurs. C'était la folie. C'était ouvert 7 jours sur 7 sur 3 étages. Ouais. Ah oui, si on compare avec ce temps-là, c'est plus ça aujourd'hui. La nudité.
Mais Internet aussi, tu sais, on a accès à beaucoup.
La nudité est très accessible sur Internet. C'est pour ça que je dis que la première raison pour laquelle les femmes viennent au 280 en ce moment, c'est pas la nudité. T'en as, si je compare avec ce qu'il fait sur le web, on a l'air d'une bibliothèque, là, tu sais. C'est vraiment bon enfant, tranquille.
Oui, c'est bon chic, bon genre.
On crie, on a du fun, on s'amuse, mais tu sais, au niveau de la nudité, ça arrive vraiment en second plan.
C'est quoi tes plus beaux souvenirs?
Ah, bon, il y en a plein. Écoute, j'ai une équipe extraordinaire. Tous les moments que j'ai passés avec eux, même à chaque fois que j'arrive, combien on rit, on s'amuse. C'est un peu comme avoir des enfants, j'ai l'impression. J'en ai pas, mais je pense que c'est ça. C'est
t'as
des
plein
fois,
d'enfants.
Il tombe ses nerfs, il t'exaspère, mais en même temps, t'échangerais pour rien au monde. C'est un peu cette relation-là. C'est définitivement avec l'équipe, les meilleurs souvenirs.
Puis, il y a quelque chose qui me fascine dans ton histoire, c'est comment on arrive comme femme dans cet univers d'hommes-là. Est-ce que ça te donne un certain aura ou as-tu l'impression, au contraire, que peut-être ça te nuit? Comment tu t'es imposée dans cet univers-là, quand t'es arrivée à tes débuts?
J'avais 10 ans quand mon père a ouvert le club. Tu sais, je suis allée, j'avais presque 18 ans. J'ai pas été traînée là, à 11 ans de nuit.
Non, je comprends. Oui, oui. N'appelons pas la DPJ.
Non, c'est ça. Ça a toujours été dans notre famille. Le personnel me connaissait déjà un peu. Puis je suis pas arrivée avec mes gros sabots non plus. J'écoute, je vois que, tu sais, j'ai écouté les gars, comment ça fonctionne. Puis tranquillement, pas vite, j'ai adapté mon style. Puis après ça, ben tu gères des êtres humains, il faut que tu t'adaptes. Avec chacun a ses forces, ses faiblesses, son passé. On s'adapte. Peu importe si c'est de nuit, de jour, peu importe l'emploi. C'est quand t'es gestionnaire, t'es gestionnaire.
Puis là, est-ce que vous allez faire un gros party pour votre fermeture? Comment tu vois ça, la fin du
80? Mais je suis tellement pas... Je sais pas réfléchir. En ce moment, je suis concentrée sur le 40e anniversaire en avril.
Ouais.
Là, je fais la tournée des médias parce que c'est quand même une annonce, je pense, ben, importante, entre guillemets. En septembre, je sais pas, mais oui, certainement que le 5 septembre, le samedi soir, ça va être une grande soirée, c'est sûr. C'est très émotif, c'est clair.
Qu'est-ce que tu vas faire après?
J'ai eu la chance, dans les dernières années, de faire des longs voyages. L'an passé, à pareille date, je revenais du Rwanda. Ça m'a beaucoup touchée. Puis, il y a un mot qui m'habite depuis ce temps-là. J'ai juste envie d'être utile quelque part. Je sais pas comment ça va se concrétiser, quand non plus. Mais ça va arriver. Je reviendrai vous en parler dans 2 ans.
Puis est-ce qu'on pourrait penser que l'aventure du 281 pourrait se poursuivre?
Ah, absolument. Je suis ouverte. S'il y a des propositions sérieuses, je vais les étudier. Sauf que ça implique un déménagement. Donc, il faudra voir quel...
Ça a eu l'air de quand même te marquer ce déménagement-là.
Oui. Non, mais là, ça serait différent de reprendre les rênes puis de déménager en ce moment, tu sais.
Annie Delille, merci, propriétaire et tenancière du 281. Je vais souhaiter une belle fin de parcours puis un beau voyage. Puis oui, tu reviendras nous reparler de la suite. Merci beaucoup.
Merci.
Écrivaine, blogueuse, scénariste et animatrice.
Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
Parlons maintenant du décès tragique d'Océane Boyer. C'est cette adolescente de 13 ans qui a été retrouvée morte hier dans les Laurentides. On va parler un petit peu plus tard à son ex-enseignante, Jocelyne Dubé. Mais juste avant, on va faire on va essayer de résumer un peu les faits parce qu'évidemment, les informations rentrent rapidement, beaucoup d'informations. On va faire un retour avec Maude Boutet, co-animatrice de l'émission Franchement dit, ici même à Cube Radio. Bonjour Maude.
Salut Geneviève.
Qu'est-ce qu'on sait à présent sur le décès de la petite Océane?
Donc, Océane a été retrouvée sur le bord de la rue Berlin hier avant midi. C'est à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides. C'est un automobiliste, ou du moins un passant, qui aurait fait cette macabre découverte vers 11h15 hier. Elle a ensuite été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté par la suite. Selon les informations très préliminaires qu'on a, il faut le dire, elle aurait été tuée d'une balle dans la tête. Elle était en partie dénudée lorsqu'elle a été retrouvée. Elle était à une dizaine de kilomètres de la chute, là où elle habite. Et Océane avait quitté son domicile le matin pour se rendre à l'école.
Comme d'habitude, là?
Oui, oui, comme d'habitude. T'sais, sa mère lui a donné son lunch. Elle est partie avec. Elle dit bye, je t'aime. T'sais, une journée super normale, mais n'est jamais parvenue même à la polyvalente de la chute.
Puis sa mère travaille à cette école. Elle travaille à la cafétéria, je crois.
Exactement. Elle ne l'avait pas vue sur l'heure du midi.
Mais en même temps, c'est une adolescente.
C'est ça. Puis l'école ne l'a pas appelée pour dire qu'elle n'était pas présente non plus. Donc, c'est seulement en soirée, quand elle n'est pas revenue à la maison, sa mère disait « Elle est au quart de tour. » Puis là, elle n'est pas rentrée. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a signalé sa disparition aux autorités. Et c'est ça qui a permis de faire le lien avec le corps qui avait été retrouvé plus tôt dans la journée. Les policiers avaient retrouvé le corps, on ne l'avait pas encore identifié. Et entre-temps, ben, y a cet avis de disparition-là qui est entré. Donc, ça n'a pas trop tardé, on a fait le lien, on a pu confirmer ce lien-là donc avec la famille. En entrevue avec Marianne Lapierre à TVA, il y a les parents de cette jeune fille-là qui disent vouloir des réponses, veulent savoir qui a commis ce meurtre gratuit-là. Je veux mentionner qu'à cause de la tempête, aujourd'hui, les écoles sont fermées à la chute. Donc, c'est à la maison des jeunes qu'il y a de l'aide psychosociale qui est offerte cet après-midi, autant aux amis qu'aux camarades de classe de la jeune fille qui en auraient besoin. Les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec enquêtent sur le meurtre. Il y a beaucoup d'effectifs sur le terrain, notamment parce qu'elle a été vue pour la dernière fois à la chute, mais retrouvée à Brownsburg-Chatham. Donc, il y a comme un grand périmètre, beaucoup de possibilités à étudier de ce côté-là. Et évidemment, ben, si vous avez des informations, il y a un moyen de le communiquer, plusieurs moyens en fait. Il y a la Sûreté du Québec qui a érigé un poste de commandement près de la rue Berlin où le corps de Céane a été découvert. Les enquêteurs vont y rencontrer toute personne qui pense avoir de l'information et ou qui pourrait avoir vu quelque chose hier en lien avec cet homicide-là. C'est aussi possible d'appeler au 1-800-659-4264. Les appels qui vont être traités de façon anonyme et confidentiel. Puis si vous n'êtes pas sûr, prenez donc la chance. Si vous dites,
peut-être que
j'ai vu quelque chose, mais ça, c'est rien, ça doit être rien. Prenez la chance, appelez. Il n'y a rien qui est trop.
Ben oui, parce que parfois, il y a une information qui peut-être peut nous sembler vouloir rien dire, qui mise avec d'autres informations que détiennent les policiers, peut mener à quelque chose. Donc, évidemment, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de mauvaises informations. C'est ce qu'on dit toujours dans ce cas-là. Évidemment, ça nous touche énormément, cette histoire-là. Par ailleurs, je me demandais comment j'allais faire pour en parler au début de l'émission sans me mettre à pleurer. Tout le monde ici, tout le Québec est évidemment très touché par cette histoire et j'espère qu'on mettra très, très vite la main sur un suspect. On s'en va tout de suite parler à Jocelyne Dubé. Jocelyne Dubé, c'est une ex-enseignante. Elle est au bout du fil. Elle a enseigné à Océane l'année dernière. Bonjour, Madame Dubé.
Bonjour.
Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de nous parler aujourd'hui parce que j'imagine que ça doit être des moments excessivement difficiles. J'avais envie qu'on se parle d'Océane ensemble parce que vous y avez enseigné l'année dernière, l'année précédente aussi. Vous avez été aussi sa prof d'éducation physique. Comment elle était, Océane?
En fait, Océane, c'était une élève vraiment persévérante. On parle de persévérance scolaire, là, mais vraiment persévérante malgré ces quelques difficultés là, pendant son parcours scolaire, motivée, impliquée, autant chez les élèves que le personnel enseignant, toujours prête à vouloir rendre un service dans les activités, autant à l'école, dans les activités aussi parascolaires, là, par exemple le basketball. C'était une petite fille enjouée, souriante, motivée encore une fois et son rêve était de devenir orthopédagogue, comme elle aimait bien aider les autres.
Ce que je comprends, c'est qu'elle était très impliquée dans la communauté, finalement, dans sa communauté étudiante.
Oui, ben, et autant étudiante et aussi avec la Maison des jeunes. Là, je sais qu'elle s'impliquait beaucoup, puis elle aimait ça. J'ai l'impression que ça lui permettait aussi de se valoriser, puis c'est excellent pour elle, là. Parce qu'elle avait une bonne capacité d'adaptation puis de gestion, là, si on veut, là, de différentes situations, là. Donc, que de créer une activité, de parler aux gens, d'expliquer quelque chose lorsque venait le temps des présentations orales, là, c'était pas un problème pour elle, là, à se préparer, c'était toujours impeccable, vraiment. On est sous le choc, là, ce matin, je dois vous avouer que c'est vraiment un sentiment d'incompréhension, d'injustice, de tristesse.
Comment vous l'avez appris?
Ben ce matin avec les médias, avec les réseaux sociaux, là, des gens de son entourage, des gens là qui m'ont écrit, d'anciens élèves avec qui Océane, ben des anciens élèves que que j'avais l'an dernier, mais des élèves qui étaient avec elle cette année en classe, qui on partageait la nouvelle, puis c'était comme, mon Dieu, c'est incroyable ce qu'elle est en train de vivre, c'est que les parents sont en train de vivre, là.
Est-ce que vous les connaissez, ses parents, Mme Dubé, à OCM?
Ben en fait, ses parents sont, c'est une famille, là, vraiment tissée serrée, toujours prête à donner le meilleur pour leur enfant. C'est vraiment toujours présent à l'école pour les rencontres et tout, donc c'est vraiment... épouvantable ce qui leur arrive, là. Je me mets à leur place, puis ça doit pas être évident, d'autant plus que on le mentionne dans les médias qu'elle demeure à l'avant de l'école. Donc c'est ça aussi qui demeure incompréhensible, parce que elle est vraiment à quelques minutes, à quelques pas de l'école secondaire. Puis comment se fait-il qu'elle se soit jamais rendue finalement, là? Ça,
c'est incompréhensible. Quel souvenir, en terminant, vous allez garder d'Océane Boyer, Jocelyne Dubé?
Je vous dirais que c'est une élève... c'est sa joie de vivre, sa motivation, de jamais lâcher. Moi, ça, c'est vraiment de jamais lâcher. Puis quand on a un but, un rêve, que tout est possible, parce que malgré ses difficultés, comme je le mentionnais tout à l'heure, son rêve d'être orthopédagogue, elle y croyait, là. Puis c'est ça qui était beau à voir, parce qu'elle avait même fait le calcul que, lorsque je vais terminer mes études, tu vas encore travailler, donc je vais pouvoir venir dans ton école, travailler avec toi, puis enseigner à tes élèves aussi, là. Donc c'était beau l'image qu'elle avait, là, par rapport à son futur, là. Donc...
Jocelyne Dubé, merci. On va vous souhaiter bonne chance, parce que je vois que vous êtes touchée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. C'est très, très apprécié. Jocelyne Dubé, qui est l'ex-enseignante d'Océane Boyer. On s'en va parler avec Nancy Roy. Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Bonjour, Mme Roy.
Bonjour.
Écoutez, évidemment, l'histoire d'Océane Boyer secoue le Québec en entier. Ça nous touche énormément, tout le monde. Et on a vu plutôt la famille d'Océane s'exprimer à TVA, raconter un peu comment ils se sentaient. Ces parents-là, ils vont passer par toutes sortes d'émotions, là.
Ah, ça, c'est sûr, parce que je pense qu'il n'y a pas pire drame que de perdre son enfant, surtout si c'est vécu dans la violence, l'incompréhension, et ils n'ont pas encore tous les détails là qui entourent cet homicide-là, qui a été très violent. Donc, c'est difficile pour ces familles-là.
Oui, puis il y a le fait aussi de ne pas savoir ce qui s'est passé. La mère, entre autres, racontait que tout au long de la journée, ils sont passés sur la route, ils ont vu des voitures de police, un camion du coroner, mais jamais ils n'auraient pu penser que c'était leur fille. La mère racontait, en fait, qu'elle a compris ce qui s'était passé quand les policiers lui ont montré le collier de sa fille. Ça doit être un choc excessivement violent. Et j'avais envie de vous demander le fait, justement, que cette jeune fille-là ait été victime d'une mort violente, c'est-à-dire la mère a bien souligné qu'elle n'était pas présentable quand ils se sont rendus à son chevet. Donc, ses parents n'ont pas pu la voir. Comment ça va impacter ça, le processus de deuil? Est-ce que ça va le compliquer?
Ben, je pense que juste le fait que ça soit un homicide, ça complique beaucoup, beaucoup le deuil, parce que cette famille-là devra avoir le sentiment que justice a été rendue. Puis malheureusement, c'est après plusieurs années que le système judiciaire, ça va être enclenché. Vous savez, ils vont vivre beaucoup d'isolement aussi, cette famille-là. Au début, il y a beaucoup de monde qui sont autour d'eux autres, mais à un moment donné, il y a l'isolement. C'est pour ça que l'AFPAD organise plusieurs activités pour que ces parents-là se retrouvent avec des parents qui ont vécu la même onde de choc, parce qu'il n'y a pas juste les parents, il y a toute la famille autour, il y a les amis, il y a les collègues à l'école, il y a toute cette onde de choc-là, qui tous ces gens-là sont impactés, mais évidemment les parents davantage.
Ben oui, parce que, bon, vous l'avez bien souligné, puis je pense que c'est comme ça aussi dans tous les processus de deuil. Au début, on est très, très bien entouré, les gens sont là pour nous, il y a de l'attention aussi médiatique, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais à un moment donné, toute cette attention-là, les gens retournent à leur vie, hein, puis c'est normal, et là, on se retrouve seul avec nos émotions, et ça peut être difficile à gérer.
Et souvent, ces parents-là, les gens savent pas quoi leur dire, savent pas comment les approcher. Est-ce qu'on doit leur en parler ou on doit pas leur en parler? Donc, nous, à l'AFPAD, on a fait des guides, un guide de retour à l'école après un drame, qui sont gratuits, ils sont disponibles sur notre site, ou le retour à l'emploi après un drame, pour expliquer aux collègues, aux amis, comment interagir avec les personnes qui sont si lourdement affectées, parce que je pense que ce qu'elles veulent, c'est justement de pas faire le vide, qu'on n'ait pas peur d'aller les voir. Elles veulent qu'on se souvienne aussi de leur personne qui a été, la vie a été volée.
Ben oui, parce que c'est souvent l'éléphant blanc dans la pièce, ça demeure excessivement tabou quand même, là, d'aller parler de ça.
Oui, c'est tabou.
Et je suis contente que vous souleviez la question de l'emploi, parce que corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que le congé alloué par les employeurs quand on perd un enfant ou quelqu'un très proche de nous, c'est pas si long que ça.
Non, c'est pas long, mais il y a le droit à l'assurance-emploi là quand on perd un enfant, mais évidemment, si on a des assurances collectives, ça peut être un peu plus long, mais c'est pas tout le monde qui sont bien protégés, puis c'est pas tout le monde qui ont le droit à cette indemnité-là.
Oui.
Parce que, faut se le rappeler, les parents de cette jeune fille-là seront pas considérés comme des victimes, malheureusement. Ils vont être considérés comme des proches, donc ils vont avoir droit par l'IVAC à 30 séances de psychothérapie. Alors, c'est plus facile de recevoir de l'aide psychologique autant qu'on en a besoin si on se fait donner un coup de pied dans la rue que si on perd son enfant. Fait que c'est une de nos batailles, ça, parce que pour nous, c'est ridicule.
Mais ce sont des victimes.
Ben, pour nous, oui, mais la loi ne les reconnaît pas comme des victimes. Alors, c'est une de nos batailles.
Il y a un commentaire que je vois passer depuis ce matin sur les médias sociaux qui est souvent fait par des parents. Les gens se disent... une mort comme ça, comme parent, moi, je m'en remettrai jamais. Comment ça se... Est-ce que les parents s'en remettent?
Vous savez, Marie-Paul McInnes disait à d'autres parents, à un moment donné, tu vas réapprendre à sourire. C'est extrêmement pénible. Ces gens-là vivent en montagne russe. Mais la vie, souvent, apporte des petits bonheurs. Puis ils réussissent à apprendre à vivre ces petits bonheurs-là. Mais le vide qu'ils ont... est toujours présent, est toujours là. Dans les activités, souvent, ils partagent avec des gens qui vivent la même chose qu'eux. Ils retournent dans certaines activités. Il y en a qui sont... c'est plus difficile que d'autres, mais l'important, je pense que c'est l'accès à un psychologue qui est spécialisé dans le deuil traumatique.
Et est-ce que cet accès-là est facile?
Non, malheureusement, parce que ces parents-là vont avoir droit à chacun 30 séances de psychothérapie. C'est très vite passé, 30 séances.
Oui.
Puis après, ben, souvent, ces gens-là n'ont pas les moyens. Puis après ça, il y a le processus judiciaire qui va arriver, que ça va prendre d'ici 2 ans, peut-être, avant que ça soit terminé. Fait que les 30 séances de psychothérapie, ça fait longtemps qu'ils sont finis. Donc, est-ce qu'on pourrait penser à les soutenir davantage au niveau psychologique? Ben, c'est ce qu'on revendique.
Puis j'imagine aussi qu'il doit... Tu sais, les parents, on a cette capacité, pas toujours heureuse, à se sentir coupable tout le temps. J'imagine que ces parents-là vont devoir gérer un certain sentiment de culpabilité. Pas qu'il y ait quoi que ce soit à se reprocher, c'est pas ça que je veux dire, mais vous comprenez? Quand...
C'est la culpabilité, souvent, de dire « Bon Dieu, est-ce que j'ai le droit d'être heureux? »
Oui, c'est ça.
« Est-ce que j'ai le droit de sourire? Est-ce que j'ai le droit? » Bon, nous, c'est pour ça qu'on a fait ces guides-là du retour au travail après un drame, pour qu'aussi le milieu les accueille avec bienveillance. donc qui reviennent dans un avec des collègues de travail ou qui reviennent à l'école avec plus de facilité, parce que les amis à l'école, ça va être extrêmement difficile pour eux, ça va être difficile pour le professeur, la chaise vide d'Océane. Donc, ils doivent être préparés, ils doivent avoir des outils. Fait que nous, on va s'assurer là, d'aller porter à cette école-là le guide de retour à l'école.
Parlant d'école ce soir, bon, il y a certaines écoles qui sont fermées, mais il y a quand même beaucoup d'établissements qui sont ouverts. Je pense au retour de ma fille de 13 ans qui va revenir de sa journée. Évidemment, elle va avoir entendu parler de la mort d'Océane Boyer. Elle ne sera pas la seule et je suis absolument certaine qu'elle va me poser des questions et même que peut-être elle va avoir peur. Comment on... Est-ce qu'il y a une façon de parler à nos jeunes de ce qui s'est passé?
Je pense qu'il ne faut pas leur cacher rien. Dans le guide, on l'aborde, ça, ce sujet-là, parce que je pense qu'ils doivent savoir. On ne doit pas leur transmettre nécessairement une anxiété ou une peur, parce que ça n'arrive pas là, à tout le monde. Mais il ne faut pas non plus leur cacher ce qui est arrivé ou la vérité de ce qui s'est passé. Donc, il y a des mesures de sécurité aussi qu'il faut leur rappeler. Puis ça leur donne aussi une plus grande conscience de ce qui peut arriver à certains jeunes ou à certaines familles.
Vous avez raison, c'est peut-être une bonne occasion de rappeler certaines règles de base de sécurité, même si on ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Nancy Roy, merci, directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Je rappelle que la Sûreté du Québec recherche des témoins concernant le meurtre d'Océane Boyer. Elle demande aux possibles témoins de rejoindre le 1-800-659-4264 pour donner de possibles informations. Et je rappelle que si vous appelez, ce sera de façon totalement anonyme et confidentielle.
Les effronter.
Avec Geneviève Pettersen. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez.
Les effronter.
L'Inde, qui est le théâtre de violentes confrontations en différentes communautés depuis plusieurs jours. On va faire un état de la situation avec l'expert Serge Granger, professeur agrégé en politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Granger.
Bonjour.
Écoutez, on se parle pas souvent de politique internationale. On en parle bien peu, à mon sens, et c'est dommage. Et bon, évidemment, des violences intercommunautaires ont fait 20 morts et près de 200 blessés à New Delhi mercredi. Et ça, notamment, c'est en réaction à une controversée loi sur la citoyenneté qui est jugée discriminatoire envers les musulmans par certains. C'est quoi cette loi-là sur la citoyenneté et pourquoi ça suscite autant de réactions?
Bon, il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a une loi qui, dans une version de la loi, c'est qui permet entre autres aux gens des pays limitrophes, surtout le Bangladesh, le Népal, le Pakistan et l'Afghanistan, qui ne sont pas d'origine musulmane, à pouvoir se rendre en Inde, migrer vers l'Inde et demander un statut de citoyenneté parce qu'ils ne sont pas musulmans. Alors là, il y a une division assez évidente au point de vue de la religion. Et l'Inde, elle a été, dans le fond, créée, dans le fond, ce pays-là, en 1947, là, sur une mythologie moderne qui dit que le pays devrait être laïque. Alors,
oui, mais il y a un retour quand même des fondamentalistes religieux dans certains États indiens et c'est souvent le théâtre de conflits. Les affrontements entre les musulmans et différentes branches de l'hindouisme, ça c'est pas d'hier, là.
Non, ça fait même, je pourrais vous dire, depuis le 15e siècle.
Ben oui, c'est ça.
C'est clair que c'est pas d'hier, mais vous comprenez que l'Inde moderne qui a été construite pour qu'elle puisse tenir ensemble, il y a certains éléments que des gens jugent essentiels et même sacrés, puisqu'elles ont été constitutionnalisées, dans le fond. Hein, c'est différentes façons de voir l'Inde moderne. Et entre autres, il y avait l'idée qu'il ne devrait pas avoir de discrimination basée sur la religion. Bon, il y a une chose. Deuxième élément aussi qu'il faut regarder aussi dans cet élément-là, parce que si aussi on met une loi sur la citoyenneté, là on dit il faut prouver que depuis dans le fond, environ 4 ans que nous sommes un résident indien et non pas un étranger qui migrait légalement, qui serait d'origine d'ailleurs musulmane, les Bengalis, pensez à surtout ces gens-là. Alors ces gens-là seraient refoulés au Bengale. Si on fait le calcul aujourd'hui, il y aurait 4 millions de personnes qu'on devrait refouler au Bengale parce qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont arrivés en Inde avant une certaine date. Donc, ils perdraient leur nationalité indienne et ils seront refoulés vers le Bangladesh. Alors, vous comprenez que c'est sûr qu'il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup de ça, parce que c'est pas facile de refouler 4 millions de personnes. Et il y a les gens aussi dans le nord-est de l'Inde qui, eux, s'inquiètent de ce projet de loi-là, parce que si les hindous peuvent migrer en Inde et demander la citoyenneté, ben déjà, dans le nord-est, c'est des peuplades qui sont pas tellement hindi-fun, si vous préférez,
ouais,
qui
n'ont
pas d'origine de la majorité. Alors, eux, ils craignent aussi une migration interne, c'est-à-dire des gens du Bangladesh qui vont venir s'installer dans leur région parce qu'ils sont hindous, ils vont obtenir la citoyenneté.
Fait que là, Monsieur Granger, c'est une histoire de racisme, finalement, c'est au bout du compte, là, toutes ces tensions-là, on peut l'expliquer simplement comme ça.
Ben,
racisme religieux.
C'est plus compliqué parce qu'il y a une question aussi de migration interne qu'il faut prendre en considération. Oui, en effet, ça se base sur la religion. Indéniablement, les musulmans constituent environ 13-14% de la population indienne. 80% c'est des hindous. Alors, c'est la plus grande minorité, dans le fond, de 180 millions de personnes. Et oui, il y en a aujourd'hui, le gouvernement actuel voudrait avoir un pays qui est davantage hindouiste, si vous préférez, que multiculturel. Alors, c'est clair qu'en ce moment, il y a une question qu'on peut appeler ça du racisme ou de ségrégation religieuse. C'est évident que ça se produit en ce moment. Mais l'effet secondaire, compte tenu du nombre d'Indiens et des pays limitrophes, c'est que si on change une politique, dans le fond, migratoire, et là, on favorise soudainement d'une migration hindoue, chrétienne, bouddhiste et sikh, par cette nouvelle loi-là, eh bien, les régions, eux autres, bon, on craint qu'ils vont être submergés par cette migration qui n'est pas musulmane, mais qui est plutôt d'origine de religion indienne, et ça va submerger, dans le fond, leur région avec une migration interne, et eux seront, dans le fond, peut-être les moins nantis pour l'exploitation des richesses dans leur localité. Alors, la migration interne en Inde aussi crée beaucoup de tensions intercommunautaires, et c'est lié soit à l'identité ou soit, dans le fond, au droit de sur le lieu. Et toute cette mixité fait beaucoup de problématiques, compte tenu qu'en Inde, la ligne, disons, de survie de la pauvreté est très mince. Et les migrants nouveaux fait craindre à ces gens-là qui vont perdre, dans le fond, leurs privilèges.
Oui, puis en même temps, la question du privilège, la question de la ségrégation aussi en Inde. En tout cas, je sais pas, là, peut-être que c'est moi qui est dans le champ de penser ça, mais à cause du système des castes qui est quand même qui a été aboli, mais qui existe encore dans plusieurs régions de façon sous-jacente, là, il me semble que c'est un terreau fertile pour tout ça.
Vous avez raison, parce que je vous donne un exemple très simple. On parle des réservations. Vous savez, on appelle ça la discrimination positive. Alors, en Inde, il y en a qui se battent pour avoir un statut, dans le fond, de discriminé, pour avoir accès à ces programmes sociaux.
C'est-à-dire la caste des Dalits.
Voilà. Si vous êtes un Dalit, c'est comme un intouchable. Dans le fond, c'est la même chose. Alors, si vous êtes un Dalit ou un intouchable, vous allez avoir accès à certains programmes sociaux. Par contre, il n'y a aucune discrimination positive dépendamment de la religion. On peut être discriminé positivement si nous sommes une femme, si on vient d'une tribu, si on vient d'une basse caste, mais pas si on est d'une certaine religion. Ça, il n'y a pas de discrimination positive en Inde envers la religion. Alors, ce qui fait en sorte que ce soit des musulmans ou des hindous, et dans des régions très pauvres en Inde ou qui se développent, je vous donne un exemple, on développe des mines, par exemple, qui seront les mineurs? Est-ce que ça va être des gens de la place ou on va importer de la main-d'œuvre de l'intérieur de l'Inde, ce qui fait que les gens sur place, eux, sont très insatisfaits? Alors, il y a toujours cette tension aussi entre la localité et le centre et cette migration immense à l'intérieur du pays qui peut faire des changements démographiques très rapides. Là. Ne pensez rien qu'au Québec, une question minoritaire. Nous, on est minoritaire francophone.
Ouais.
Imaginez en Inde, quand vous êtes, je sais pas moi, un Marathi francophone, et là, soudainement, il y a 20 millions de migrants qui viennent de régions hindi-phones, alors votre langue va être en péril.
Oui, puis il y a genre 350 langues en Inde, là, donc c'est un pays un peu... on dit Incredible India, c'est vrai. En terminant, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours de ce conflit, de ces conflits, en fait?
Moi, je crois que ça va perdurer parce qu'il y a d'autres éléments qui ont été déjà acceptés par, entre autres, la reconstruction d'un temple hindou sur une mosquée qui a été détruite en 1992 par justement les hooligans qui aujourd'hui font la loi dans le nord-est de Delhi qui sont les acteurs principaux de ces émeutes. Et il y a aussi le code du code civil qui doit être reformulé parce que l'Inde n'a pas de code civil unique et simplement les lois du divorce, entre autres, ils doivent être réinscrites. Est-ce que ça va être les lois du divorce selon le code civil hindou tout, ou comme par le passé, des lois de divorce qui admettent les droits coutumiers des autres religions. Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, le gouvernement s'entête plutôt à reconstruire le temple sur une mosquée détruite et à réécrire un code civil unique et qui va marginaliser davantage les minorités.
Serge Granger, merci. Professeur agrégé en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke.
Ça fait plaisir, Mme Peterson.
Bonne journée.
De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.
Dave Morgan. J'arrive avec mes petits sujets anodins. Moi, je sais pas pourquoi, là, je m'assume là-dedans.
Voici Dave Morgan.
Oh, j'adore ton jingle, c'est tellement toi.
Mais il est arrivé la première fois, puis t'étais pas là, en plus.
Je sais, je m'excuse, j'étais loin.
J'étais un petit garçon à Noël, j'ai capoté.
Mais moi, je l'avais pas encore entendu, je l'aime. Je
pense que c'est
mon...
Oui, oui, oui.
Mon... D'ailleurs, il y a d'autres chroniqueurs qui sont jaloux.
Ah ouais,
ma sœur Bugarici tantôt a dit comment ça se fait que Dave Morgan a un jingle puis pas moi.
Ah, tant pis pour lui.
On a ce qu'on mérite.
On n'est pas le master partout.
C'est ce qu'on dit. Bon, plusieurs sujets anodins pour toi ouais. Aujourd'hui. Tu veux parler de girl power.
Ben, premièrement, c'est parce que cette semaine, j'ai quand même deux chums de filles. Je te considère comme une chum de filles. Et Mathieu Mazza, vous avez sorti votre film.
C'est vrai.
Bravo.
Mais merci.
C'est vraiment hot pour
ça
vrai.
Ça me gêne.
Par même temps, je sais même pas si on a besoin de dire girls power parce que vous êtes des artistes comme... À part entière, là, pas besoin d'y aller avec le « Bravo les filles, vous avez sorti votre film ».
Non, mais « Girls Power », dans le sens où je pense que je partage peut-être une similitude avec Mariana Mazza, c'est que je m'attaque pas à des sujets qui sont quand même si faciles, dans le sens où ça sème parfois la controverse.
Oui, absolument.
Donc, il faut être fait fort pour s'avancer dans le monde avec ce type...
Et même si tu ne me crois pas, moi, j'ai lu ton livre la première fois que je l'ai dit, tu pensais que je t'avais googlé et j'ai hâte de voir le film.
J'ai beaucoup aimé le film, puis c'était un sentiment très, très spécial pour moi d'être assise à la Berlinale puis de voir l'histoire de ma vie.
Très cool.
C'était quand même... bon, fait que...
Mais, tu serais un bon garçon, je le ramène à moi parce que je veux dire aussi que je suis quand même le concepteur de l'idée du film de Mariana Mazza. Oh! Juste, tu sais, souligner, là, le patriarcat est de retour.
Mais c'est ça, elle avait besoin d'un homme.
Ouais, elle avait besoin de moi, mais en même temps, c'est un petit monsieur, elle aussi. Bref, je vous salue, mais bravo les filles. Et aussi, je voulais te dire que je lâchais l'humour cette semaine, c'est fini.
Ah!
Je lâche Cube, tout, fini tout, là. Parce que j'ai vu qu'avec OnlyFans, ma chum Lisandre Nadeau a fait 8 000 en 6 heures.
Attends, elle est rendue à 20 000
piastres.
Attends, mais
quoi?
Ça, c'était hier soir qu'elle était rendue à 20 000 piastres.
J'ai pas suivi ça. Je pensais qu'elle avait topé.
Je ne sais pas si on peut regarder où est-ce que c'est rendu son affaire à Lisandre Nadeau.
J'étais flabbergastée et... après 10 000. Je pouvais pas croire qu'on arriverait au double.
Elle aussi, elle était flabbergastée. Là. Si on va checker ses stories, elle va sûrement nous dire à combien rendue. Mais hier soir, elle était rendue à 20 000 piastres et ça continuait. Elle était rendue à 1 000 fans. Ça continuait à
Je sais pas, moi, j'ai lu ton article par rapport à ça, puis j'étais un peu perplexe, parce que moi, je connais Lisandre depuis longtemps, et il y a de quoi que je... Je trouve ça délicat.
Ah, pourquoi?
Parce que, encore le gars, là, je ramène l'espèce de...
Sale misogyne!
Non, mais gars, je pose une question, en fait. Je pose une question, c'est que je trouve que des fois, c'est étourdissant, Geneviève. Je veux avoir ton opinion par rapport à ça.
Qu'est-ce qui est étourdissant?
C'est que...
Toutes les tontons qu'on peut voir sur Internet, ça, c'est vrai.
Non, ça, à la limite, je m'en fous, là, toutes les seins, puis tout ça, là, tu sais, c'est l'espèce de star jeunesse qu'elle est, puis qu'on fait... Tu as eu la discussion avec ta fille, ah, c'est pas grave, elle fait ça, avant son corps, go, go, go. Puis dans la même semaine, ce qui, genre, comme m'étonne aussi un peu, c'est qu'on va parler de Félix Leclerc, puis on va enlever sa chanson parce que c'est pas fait pour des enfants de 10 ans.
Ouais, mais en même temps, on n'enseigne pas l'œuvre de Lisandre Nadeau à l'école.
Non, mais
c'est
autant suivi et influençable, tu sais, pour notre jeunesse d'aujourd'hui, Félix Leclerc est quand même important. Puis l'absurdité d'une chose, je pense qu'elle est enseignée, il faut l'enseigner là, avec des textes comme celui le sien.
Oui, mais moi, je trouvais ça épais qu'on enlève le texte de Félix Leclerc, ceci dit. Mais
absolument, moi aussi.
Par rapport à Lisandre Nadeau et la peur qu'on a qu'elle ait une influence négative sur la jeune fille qui la suivent. J'ai envie de dire, puis c'est vraiment bête, là. Si tes enfants sont mineurs, puis c'est Lisandre Nadeau, c'est à toi de checker ta business.
Absolument.
D'avoir une discussion.
La discussion, tu l'as eue.
Comme Lisandre Nadeau le soulignait, pour être membre sur OnlyFans, ça prend une carte de crédit. Fait que, tu sais, à un moment donné.
Ouais, mais ça sème quand même l'idée.
Ouais, mais.
J'ai un beau corps, je pourrais le vendre à 17-18 ans.
C'est vrai que c'est Lisandre Nadeau qui a inventé ça.
Ben non,
l'idée qu'avoir un beau corps, on pouvait vendre ça.
Absolument pas. Puis ça, je mets pas cette pression-là sur ses épaules du tout.
Ça vient encore de cette idée que les filles qui utilisent leur sexualité pour faire de l'argent sont des moins bonnes personnes. Ou n'auraient pas besoin de faire ça. D'ailleurs, hier, je parlais à Cœur de Pirate qui a fait une photo nue pour son album. Et il y avait beaucoup de commentaires.
Récemment, parce qu'elle avait fait dans le passé aussi, je me rappelle.
Mais c'est intéressant ce qu'elle disait. Oui, mais ça avait leaké sans son consentement. Dans le passé. Mm-hmm. Elle me dit, c'est une façon de reprendre mon pouvoir. J'ai trouvé ça beau, ce qu'elle disait. Mais quand j'entends des gens dire, mettons, elle a pas de talent, donc elle a besoin de se montrer nue, ou elle vaut plus que ça.
Ben moi c'est un peu ça aussi.
Mais c'est un vieux Roland tellement... judéo-christianisme de marde.
Non, même... gars, mettons là, moi je te dis cette semaine, je vends mon pénis bandé sur Internet. Tu aurais un certain recul, tu ferais pourquoi tu fais ça, Dave?
Non, moi, on dirait que tu te poserais plus. Je serais curieuse.
Justement, moi je pense que je ferais à peu près 80$ en 6 jours, ce serait ça, mon gros
non,
top.
Je pense que les gens sont curieux, je pense que juste pour voir, tu sais, ouais. mettons, je sais pas moi... Je sais pas, je veux pas me mettre dans la merde en nommant quelqu'un, là, mais tu sais, mettons.
Dis aucun nom, puis compte ton histoire.
Mettons quelqu'un qu'on n'est pas habitué de. Qu'on n'aurait pas dans notre idée de l'avoir tout nu.
Ouais.
Ou même un homme arrive demain matin et fait si tu payes 10$, tu peux voir mes attributs.
Ouais.
Je vais pas nécessairement le payer pour me donner. Tu comprends? Je suis juste curieuse. Tu sais, mettons Mario Dumont met son corps à vendre sur OnlyFans. Je paye 20$ pour voir.
Ouais, je paierais aussi autant pour Mario Dumont que pour Lisande. C'est vrai que la curiosité, des fois, l'emporte pour un petit 20$. Mais je sais pas combien Lisande peut coûter. Mais bref, c'était quand même. Mais moi, ça. Surtout quand on connaît la personne, on dirait qu'on a comme un. Ah, mais pourquoi elle fait ça? Tu sais? En même temps, je le comprends, c'est de l'argent facile. T'es d'accord avec moi? T'sais, un petit 20 000 piastres.
Ben
moi, c'est là. Moi, tu me dis 20 000. Pas vrai, oui, je la mettrais, la maudite photo de moi tout nu, 20 000 piastres.
Pour combien d'argent tu serais prêt à te mettre nu sur Internet?
Mais là, ces photos-là, OnlyFans, je connais pas assez ça. Tu peux peut-être me renseigner, j'ai pas tout compris, puis je suis jamais allé.
OnlyFans, comment ça fonctionne? C'est une plateforme, OK? Tu payes tant par mois pour avoir accès à du contenu exclusif de tes vedettes. Puis c'est pas nécessairement du contenu pornographique ou érotique. Là. Mettons, il y a
ça,
des blogs de voyage qui vont donner des trucs comme vraiment plus spécialisés, tout ça. Donc, si tu tripes vraiment sur quelqu'un, c'est comme avoir une chaîne spécialisée à soi-même, mais c'est aussi une façon de contourner les règles d'Instagram. Parce qu'on s'entend.
Parce que tu te fais flaguer.
Si on prend le compte de Lisande Nadeau, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de place pour l'imagination. Là. Elle fait des photos.
On comprend très bien ce qu'elle a l'air nue.
Non, mais tu sais, elle met des photos de ses seins puis tout ça.
Ah ouais.
Puis c'est bien que moi, je suis pas en train de juger ça. Mais ce que tu peux voir sur OnlyFans, ce sont des nus intégraux. C'est-à-dire, tu vas voir tout le kit. T'sais.
Mais est-ce que les gens peuvent screenshot et aller leur vendre de leur côté?
Il paraît que si tu screenshot, tu peux te faire poursuivre. La plateforme OnlyFans a développé une app pour te dire... Tu sais, comme sur Snapchat, quand quelqu'un prenait un screenshot de ce que tu envoyais...
Ouais.
T'étais averti, c'est un peu le même principe.
C'est parce que c'était ça, moi, je me disais, tu mets ça sur OnlyFans, il y en a un qui paye, il le revend à tout le monde.
Non, c'est ça. Fait que tu t'exposes à des.
J'ai vraiment l'air de me renseigner comme si j'allais m'ouvrir un compte pour vendre mon corps.
Ouais, puis sais-tu qu'est-ce qui est fou en même temps? C'est que. Est-ce qu'elle disait, c'est. Parce que par rapport au fait, mon Dieu, si tout le monde va te voir tout nu, elle dit, j'ai envoyé tellement de nude pics à des gens que je m'en sers qu'un
peu. Ben, honnêtement, on a beaucoup d'amis en commun, puis j'ai souvent. Hey, toi aussi, t'as cette photo-là de Lisande, c'est plate à dire, mais c'est vraiment. Puis je le dirais, c'est était là.
Oui, j'ai
beaucoup d'amis qui m'ont dit « Ouais, ouais, j'ai cette photo-là, moi aussi, de Lisande nue, puis on les a. »
Non,
là,
mais quand t'as un bon angle de ton postérieur, tu recycles ça.
C'était pas son postérieur. Mais ceci dit...
Ou autre, ou autre attribut.
Exact. Mais quand même, ça amène de quoi de très léger à vendre son corps que moi, j'ai pas mis le doigt dessus et j'ai de quoi que je suis un peu perplexe. Je voulais pas faire de jeu de mots doigt dessus, je t'ai vu faire une drôle de face, là, c'était juste...
Oui, c'est drôle, mais je questionne quand... Je t'invite à questionner ton malaise.
Absolument. C'est ce que je vais faire. Puis j'ai pas trouvé de réponse dans la journée parce que c'est arrivé ce matin. J'ai lu ça. C'est toi qui as partagé l'article.
Mais oui, tu m'écris très mais tôt y a d'ailleurs quoi qui... pour me manifester ta surprise.
T'étais mon DM du matin avec mon café.
Bon.
Mais bref, c'est ça. Fait que ces questionnements-là, quand même, quand ça nous chatouille, c'est vrai que c'est important de peut-être se poser la question
pourquoi
une semaine ou deux. Puis le recul, je te reviendrai là-dessus
ouais,
parce que j'en ai pas de.
T'aimerais-tu ça que ta fille fasse ça? T'aimerais-tu ça que ta soeur fasse ça?
Ben non.
Oui, mais questionne ça aussi.
Absolument.
Son corps, c'est son corps.
Tu sais, j'ai des amis, moi, qui sont porn stars, puis je suis top à l'aise avec ça. On dirait que c'est peut-être le jouet avec personnalité jeunesse et ça m'achale un peu. C'est peut-être juste ça qui m'achale.
Lisande
bon.
Nadeau a jamais cherché à être une personnalité jeunesse. Elle fait des vidéos YouTube pour parler de sa consommation d'alcool puis de ses antidépresseurs. Ça sonne pas tellement à Robin Stella.
Non.
OK, autre grand dilemme dans les derniers jours.
Oui, ben là, ça, c'est un peu plus. C'est mon
choix déchirant.
Choix déchirant, c'est mon petit côté, disons, comme rubrique actualité. Pas actualité, artistique. C'est le dilemme du 18 juillet. Rage Against the Machine est au FAQ en même temps que Mike Ward et son sous-écoute au Centre Bell. Je suis très fier.
C'est malade, par exemple. Là.
C'est complètement fou. Puis je suis sûr il va le remplir à craquer. Mike, félicitations. Chapeau levé bien haut. Mais t'es en même temps que Rage Against the Machine. Moi, pour vrai, c'est un de mes bands cultes. J'adore l'écouter encore aujourd'hui depuis que je suis tout jeune. J'en joue avec mon band. Et ça, c'est difficile. Et un autre, sérieusement, cet été, il faut que tu commences à penser à ça là, parce que tes décisions ils vont arriver rapidement.
Oh, mon Dieu,
au mois de mai, t'as le métro métro en même temps que Santa Teresa, là. C'est pas facile, là.
Mais aucun des deux, moi.
Aucun des deux?
Mais moi, j'aille ça, les festivals.
Alexandra Strelitzky ou 50 Cent, ça t'achète, non?
Mais
ça
te chatouille pas? Moi, j'ai choisi Alexandra Strelitzky.
Moi aussi,
parce que moi, ce vieux pim de 50 Cent, j'en ai rien à
voir. Pour le gag d'avoir 50, c'est quand même drôle, je trouve.
Moi, je trouve ça déplacé.
C'est pas vrai! Mais Lisandre, ça va! Gars, tu vois, ça fait. C'est ça, il y a des petites nuances.
Attends. Lisandre, crissement que ça va par rapport à 50 Cent, qui est un ancien pim.
Hey, il a mangé 9 coups de balle, là.
Je m'en sac.
Il a payé pour.
Il aurait pu en manger 10, tant qu'à moi.
Mais c'est peut-être 10, même.
Il a exploité sexuellement des filles qui n'étaient pas consentantes.
Je sais pas toute son histoire, en fait. Vraiment, moi, c'est juste une caricature.
On est vraiment pas dans le même univers que montrer des photos de boules.
Absolument pas.
Parce qu'on est un peu gorlot, là.
Mauvaise comparaison, OK, je suis d'accord.
Mais moi, je suis là pour. On se rappelle, hein?
Tu me ramènes à l'ordre.
C'est quoi le but de ta chronique?
Exact.
Je te fais un petit peu la leçon.
T'es ma muse.
Mais Alexandra Strelitzky, ceci dit, j'aime beaucoup.
Moi aussi, plus que 50 Cent, ouais. Honnêtement. Mais quand même, reste que c'est déchirant pour Rage Against the Machine et ce sacré Mike Ward. Fait que à vous de décider. Inbox, donnez-moi des arguments. Faut m'aider à choisir.
Mais
s'il
moi,
vous
c'est
plaît.
Sûr que je choisis Mike Ward.
Ouais, hein?
J'ai
mais Rage, c'est leur retour au Québec. C'est quand même épique,
sais,
là.
Je sais pas.
C'est gros, là.
On peut pas faire les deux.
On pourrait
faire la première partie de Rage Against the Machine. Mike Ward, ça fit.
Ça fit, en maudit. Mais on peut se trouver peut-être une plug là, d'avion. On appelle aux gens qui ont des hélicoptères ou des avions. Ça serait gentil pour moi puis Jen. On va débourser ce qu'il faut.
En fait, Pierre-Carles va nous prêter l'hélicoptère TVA. Il vient nous me texter.
Mais oui, là. Voilà. Réglé. Parfait. Tant pis pour vous, tout le monde. Nous, on va voir les deux.
Dave Morgan, merci. Puis
merci.
On va suivre ta carrière sur OnlyFans.
Puis oubliez pas, j'ai un dernier truc. Je peux-tu? J'ai-tu le temps? J'ai-tu
une
minute?
Une minute.
28 jours sans alcool, ça n'a pas fonctionné. Je me pars un jeûne intermittent. Je te reviens là-dessus. Dans ma prochaine chronique. Ouais, j'essaye. Je pense pas que je vais toffer, mais j'ai un peu la chienne parce que j'étais un petit glouton, moi, dans la vie. Là. J'aime ça grignoter
faut pas
à tout heure.
Ça n'importe comment, là. Dave Morgan, là, je l'intermittent, là.
J'ai un nutritionniste avec moi qui est là-dedans, à côté, puis qui prône ça, puis qui me dit que c'est nouveau, puis c'est bon. Je suis comme, voyons, on va être pauvre, puis pas manger, c'est rien de nouveau.
Ça sonne vraiment charlatan, ton affaire. Juste te dire, il faut lire le livre de Jason Fong, Code d'obésité, si tu veux te renseigner sur
ça. J'aurais pas le temps une semaine.
De toute façon, tu sais pas lire, t'es un décrocheur. Dave Morgan, merci.
Merci à toi.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
Développement dans l'affaire Océane Boyer. Un homme a été arrêté à Montréal en lien avec le meurtre de la jeune fille, cette jeune fille de 13 ans tuée hier. Et c'est ce qu'a annoncé la Sûreté du Québec sur Twitter. Donc, évidemment, on est en train de suivre cette affaire-là. On va vous tenir au courant de tous les développements. Mais pour le moment, c'est tout ce qu'on sait. On a procédé à l'arrestation d'un homme à Montréal. On s'en va complètement ailleurs. Je suis avec Jean Balthazar, producteur de contenu pour Tablette, que vous le connaissez. Il fait aussi du contenu pour notre marque Dans le trafic.
Oui, exact.
Mais là, on partage de quoi?
Okay. On partage de quoi, oui.
Tu as vécu quelque chose d'assez inusité. En fait, tu as testé...
Intense, on pourrait dire.
Oui, tu as testé la méthode Wim Hof. Je ne sais pas si on le dit comme ça.
Exact, oui.
OK. Puis ça, c'est une vidéo qu'on peut voir sur le site de Tablette, évidemment. Dans le fond, tu t'es plongé dans l'eau très, très froide. T'as fait de toi un François Lambert, finalement.
Exactement,
c'est un drôle
oui.
de timing.
La vidéo virale, exactement, de François Lambert dans sa douche, qui est un bijou en soi. Mais oui,
attends, après, il s'est filmé dans son lac.
En tout cas, il y a une série de vidéos pas possible sur ça. Mais...
C'est ça qui t'a donné l'idée de faire ça?
Non, en fait, moi, je l'avais déjà fait. Fait que ça a été un drôle de timing. Okay. Moi, j'étais vraiment intéressé parce qu'il y a de plus en plus d'adeptes de la méthode Wim Hof, qui est vraiment une technique, en fait, qui comprend de la méditation, des techniques de respiration, mais on retient surtout, dans le fond, l'exposition au froid. La majorité du temps, les gens, dans le fond, vont se baigner dans l'eau glacée pendant X nombre de minutes. C'est suggéré pour ceux qui l'essaient de rester entre une minute et demie et deux minutes.
Ça a l'air pas long, mais c'est très, très long.
C'est tellement immense comme temps, là. Je veux dire, moi, je l'ai essayé. La journée que je me suis réveillé pour ce reportage-là, j'ai été stressé. J'ai été stressé toute la journée jusqu'à temps que je rentre dans l'eau. Même après, on dirait que j'étais encore stressé. C'est vraiment beaucoup. Les gens pensent qu'il y a des risques d'hypothermie, d'engelure. À une minute et demie, deux minutes, c'est pas super. C'est sûr qu'on conseille aux gens quand même de respecter leurs limites dans le sens que
attends.
Si tu te sens pas bien, sors de l'eau, mais c'est côté hypothermie, quand même, il n'y a pas beaucoup de risques.
On va revenir un peu en arrière. Oui. Là, on fait pas ça n'importe comment. Là. Ça a l'air bien simple, mais là, toi, tu te rends dans la région de Val-David. Il y a des instructeurs qui sont certifiés, qui t'ont accompagné un peu dans cette étape-là. Parce qu'évidemment, on se plonge pas dans un lac d'eau glacée ou dans une rivière sans trop de non, planification.
Non, exact. Il faut que ça soit sécuritaire. Il faut le faire en groupe parce que, évidemment, les techniques de respiration, c'est un peu de l'hyperventilation. Fait qu'il y a quand même un risque de, tu sais, d'avoir la tête légère, même d'évanouissement, tout ce qui est, tu sais, eau glacée,
oui, la pression un peu moins.
Exact. Fait qu'il faut quand même le faire en groupe pour s'assurer que tout le monde se sente bien. Puis c'est ça. Tu sais, au moins cette journée-là, c'était sécuritaire. Fait que c'est ça qui m'a rassuré. Après ça, l'expérience, c'est d'autres choses. Mais
moi,
j'ai
essayé cette affaire-là. Puis l'idée, évidemment, c'est d'imposer un grand stress au corps. Exact. Et je sais pas si t'es comme moi, mais après, quand même, on dirait que je me sentais vraiment revigorée. Même si c'était très difficile sur le moment, là, il y a quand même quelque chose de vivifiant.
Pas moi.
Non!
Non. Je veux dire, pour tout le en tout cas, le stress...
Toi, t'as pas trippé, là.
Non, pas tant. Non, je le referais pas. Tu sais, je l'ai dit, on l'a pas gardé au montage, mais je l'ai dit à la fin. Je suis content de l'avoir fait pour l'expérience, mais c'est pas le genre de truc que je referais. T'sais, en tout cas, 2 minutes dans l'eau glacée, je le referais pas. Tu sais, on le voit dans la vidéo, mais après 30-45 minutes, je shakais encore.
Tu veux dire?
Non, 30-40 minutes.
Après l'avoir fait.
Après l'immersion dans l'eau glacée, je shakais encore, tu sais, dans l'auto. J'étais vraiment
comme le chauffage dans le fond, là.
Ouais, j'avais mon manteau, mais j'étais mal préparé aussi, là. Puis.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, dans le sens que j'aurais dû m'amener des couvertes, des bonnes mitaines. J'avais des bottes de ville. C'était super compliqué à mettre après. Tu sais, j'aurais dû penser à ça, mais en même temps, c'était peut-être un plus parce que j'ai pas tant réfléchi à l'après qui, selon moi, a été plus intense que sur le coup. Sur le coup, c'est bizarre.
Quand t'étais dans l'eau?
Dans l'eau, je veux dire, oui, il y a eu un 15-30 secondes où j'ai un choc vraiment physique, physiologique. Tu sais, c'est normal, tout le monde a ça. Fait que pendant 15-30 secondes, t'hyperventiles, tu te sens pas bien. C'est vraiment une réaction à un stress extrême. Puis après ça, j'étais vraiment dans un état calme. Après, je me disais comment je vais faire 2 minutes, mais tu sais, entre 1 minute et 1 minute et demie, on dirait que ça a passé en un claquement de doigts.
Mais l'instructeur, il restait à côté de toi tout le long, puis il t'aidait à moduler ta respiration.
Ben lui, il dit, en fait, il te force à garder vraiment une respiration, puis à te concentrer sur ta respiration. Puis ce qui est intéressant avec cette méthode-là, ce qu'il dit, c'est que ça te force à être dans un état méditatif, parce que souvent, on s'impose des états méditatifs. On va dire, je vais aller au yoga, je vais méditer. Mais ça, en étant dans l'eau, t'as pas le choix de penser à rien, de juste penser à ta respiration.
Mais faut que tu te concentres à ne pas sortir, parce que ton premier réflexe, c'est de sortir de là.
Exact. Fait que t'es vraiment dans un état méditatif. Puis ce qui est intéressant aussi, ben c'est sûr qu'ils te vendent plein de bienfaits sur le site de Wim Hof, qui est un personnage.
Est-ce que c'est prouvé scientifiquement?
Non, c'est ça. C'est pas. Ben, en fait,
c'est qui ce gars-là? Là,
Wim Hof, en fait, c'est ça. C'est un Irlandais qui a, en fait, c'est un phénomène de la nature. Il a fait des choses extraordinaires. Je le disais dans mon texte qui accompagnait la vidéo, mais 70 minutes dans un bac de glace, un demi-marathon pieds nus sur la neige, ouais, sur la glace.
C'est un fanatique un peu des extrêmes.
Exactement.
Température.
Puis lui, il a popularisé cette technique-là qui, en soi, tu sais, je veux dire, tous les éléments, ça a déjà existé. Tu sais, la méditation, c'est pas lui qui a inventé ça, mais il a popularisé l'ensemble des trois. Lui, il vend ça, il dit comme ça, tu sais, ça améliore, ça renforce ton système immunitaire, ça réussit à, tu sais, tu peux diminuer des symptômes de l'arthrite ou des maladies comme le Parkinson. Fait qu'il vend beaucoup sa salade. Moi, j'ai parlé à 5 experts qui disent grosso modo que c'est très, très, très difficile de prouver ça scientifiquement.
Ouais.
Ça reste intéressant. Il y a des petites recherches qui ont été faites sur le sujet. Mais pour l'instant, ce sont pas assez grosses, ces recherches-là, pour qu'on en arrive à des conclusions puis d'établir des liens directs entre les bienfaits présentés et la méthode. Mais tous les experts s'entendent pour dire que ça va être intéressant dans le futur d'analyser ça s'il y a d'autres recherches qui sont faites sur le sujet, parce que reste que ben, la méditation, même la respiration, puis même l'exposition au froid, c'est de plus en plus étudié. Puis pour avoir un côté thérapeutique à tout ça, là.
Jean Balthazar, merci beaucoup d'avoir fait cette expérimentation. Pour nous, ça vaut la peine. Je sais pas si ça vaut la peine d'être vécu, mais ça vaut la peine d'être vu, parce que juste te voir plonger dans l'eau, puis quand tu sors, ça vaut le détour. C'est sur tabloïd.co. Merci beaucoup.
Merci, Geneviève.
Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
Je suis tellement énervée. C'est le retour de la papesse des potins. T'as pas de jingle encore?
Mais non.
Ça va venir, puis il va y avoir de la musique. Carmina Burana, ça serait pas mal bon. Pour annoncer ta venue.
Mon grand
retour. Écoute, tu nous as manqué. Où t'étais?
Au Togo.
Oui. Toi, tu vas pas à Cuba, tu vas au Togo.
Ouais, on n'en a pas parlé, malheureusement.
Parle-moi-en une petite minute, parce que ça marque l'imaginaire quand même. Ben, t'es allé en vacances?
Non, ben oui, puis non. Là, j'ai pris mes vacances au bureau, puis j'ai fait un petit mandat de coopération internationale.
Ah, t'es vraiment une bonne personne.
Ouais, quand
tu
je fais
pour tout le clip
c'est ça. Fait que je suis allée, mais c'était de la com, là. Je faisais des articles pour une ONG canadienne. Mais c'était
ben,
pas
bravo, une t'es pas... une bonne personne.
Ouais,
il y a de l'espoir.
J'essaye.
OK, là, je sais pas de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai rien dans mon dossier. T'as voulu me surprendre. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé et il s'en passe des affaires dans le monde de la potinerie.
Ben, il y a comme des grands dossiers puis il y a
des très grands dossiers.
Ben, ouais. C'est ça. Fait que, on va commencer par une grande enquête du sac de chips.
Donc, on a mis, déjà, je suis mort de rire.
On a mis en ligne tout à l'heure. Ouais. Cœur de pirate aurait retrouvé l'amour.
Ben, là, encore. J'ai parlé hier au téléphone. Elle m'a pas dit ça.
Attends, ben, c'est ça, je te dis. C'est une grande enquête. Là, c'est pas confirmé, hein. Fait que, mettez du conditionnel.
Tu aurais pu m'appeler. J'aurais demandé live.
Ah, ben oui, c'est ça. Hein. Faudrait que je t'appelle la veille de mes chroniques.
C'est parce que je quand même de l'intel, moi, là.
Oui, OK. Bon, ben garde. Alors, c'est ça, là. Allez-y dans le non confirmé, là. Hein? Je ne veux, veux pas que vous m'attaquiez.
C'est du potin.
En justice, c'est la définition du potin, mais ça serait un certain Marc. OK. Et voilà, elle a mis des photos, des stories. Tu sais, là, quand tu mets une photo, puis tu coupes judicieusement au cou.
Ah, j'ai fait ça, moi.
T'as fait ça?
Oui, j'ai fait ça, puis j'ai fait des photos très floues aussi.
Ah, non, juste pour Seigneur. Ouais. Ah, non, non, non. Ou une main, tu sais, des fois, c'est une main, des mains entrelacées.
J'ai fait la main, mais pas entrelacées, non.
T'as mis juste ta main?
J'ai
mis
la... Ah ouais,
c'est un peu creepy.
J'avais le goût de le dire, puis je voulais pas le dire en même temps. J'étais comme contente, mais j'avais peur. En tout cas, tout ça.
Je suis tellement contente qu'on n'avait pas Instagram, genre, au secondaire. Imagine comment on s'est sauvés de
malaise.
Tout ça. Ouais, fait que voilà, vous en apprendrez probablement plus ou pas dans les prochains jours, si elle décide de confirmer ou pas, hein. C'est parce que tout...
Ben, elle confirme un peu, là.
C'est libre à elle. Ben là, on verra. Ça peut être un ami, tu sais, je veux dire, tout est possible. Alors, ensuite de tout ça, ben là, le grand dossier, parce que là, on ne parle que de Lisande Nadeau sur le web, je sais pas si vous en avez parlé.
J'ai littéralement consacré 20 minutes d'émission et une chronique dans le Journal de Montréal. Qu'as-tu à m'apprendre?
Ben rien. Je voulais juste dire que
tu penses bon, non? Mais je sais.
Mais non, j'ai rien mis dans mon papier. J'ai juste dit, il faut mentionner que ça existe.
Oui, sur OnlyFans, puis à nous vendre des images d'elle nue.
Voilà.
Moi, j'avais une question pendant que tu me parlais de tes grands dossiers que j'ai envie de te poser depuis longtemps.
OK.
T'as-tu peur?
Oui.
Non, mais c'est parce que je veux savoir, est-ce qu'au sac de chips, il y a des gens qui vous écrivent ou vous tips, genre vous envoient des photos? Comment vous gérez ça?
Non, on reçoit pas beaucoup de photos, mais on reçoit des DMs, donc des petits messages privés.
Des gens qui disent, mettons, j'ai vu telle personne, nanana.
Oui, à telle place. J'étais au Centre Bell, puis j'ai vu Laurent Jalbert. Je dis ça parce qu'elle s'en vient plus tard dans ma chronique. Mais oui, des petits mots comme ça, mais c'est rarement utilisable. T'sais, c'est souvent comme...
C'est quoi l'éthique par rapport à ça?
C'est qu'on le fait pas. On n'est pas, tu sais, ça dépend. Il y a des sites de potins qui pourraient le mettre, genre selon
mettons
nos informations.
En Angleterre, ils publient n'importe
tout
quoi.
Tout à fait.
Là.
Selon une source, puis là on pourrait faire un article avec ça. Mais je veux dire, ça donne quoi là? Tu sais, c'est vraiment.
Mais ça donne des clics.
Ouais.
C'est ce que j'aurais envie de te dire.
Mais non, mais on essaie. Tu sais, il faut qu'il y ait plus qu'une personne qui le confirme. Puis...
Mais y a-t-il une certaine complaisance parce qu'au Québec c'est petit, puis vous avez peur un peu de la réaction de certains artistes?
Oh, ben je pense que oui. Ben c'est pas qu'on a peur, c'est qu'il y a un respect aussi là quand même au Québec là, qui est bien, c'est ça. Puis mais oui, il y a tout un laissons les gens annoncer eux-mêmes. Là, comme là, dans
mais
le cas
je
de...
me renseigne pour quand je vais laisser Perry savoir comment vous allez gérer
ouais,
ça.
Comment? ben, je vais attendre que tu m'en parles en live.
Non, mais si quelqu'un t'envoie des. En tout cas, tu me.
Ouais. Je te le dirai si tu veux. Je te mettrai en copie. Non, non, mais envoyez-nous-les, hein, par exemple, continuez, parce qu'on aime ça. À l'interne, moi, j'aime ça, lire ça.
Je vous confirme que des fois, ça nous fait des petites discussions le fun.
Ben oui, c'est le fun. C'est pas parce qu'on ne le met pas en ligne que.
Qu'on n'en parle pas sans arrêt.
Exactement. Qu'on ne s'est pas régalé.
OK.
Donc, voilà, fait que j'ai pas grand chose d'autre à
dire sur les centres.
Non, c'est ça qui est fait. Cela dit, récemment, elle a enlevé là, de ses stories les montants où elle était rendue. Donc, je pense que peut-être que ça faisait trop réagir. Fait que, tu sais, parce qu'il y en a qui disaient qu'elle était rendue à peut-être 38 000.
Mais là, elle était rendue à 20 000 piastres US hier soir.
Ben, c'est ça. Ben, là, aujourd'hui, c'était 38 000.
Bon, super.
Fait que ça a comme doublé.
Mais tant mieux pour elle.
Mais là, elle a tout enlevé. Fait que j'imagine qu'elle est tannée d'en entendre parler puis on la comprend. Là, fait que c'est ça. Alors, là, il y a des séparations qui ont chamboulé le showbiz.
Ça, j'aime ça quand le monde s'entraîne. Moi, je fais la promotion du divorce. J'aime ça.
Ben voyons, toi.
Jean-Michel Anctil vend sa maison.
C'est ça.
Hey, Jean-Michel Anctil, c'est fait.
Jean-Michel Anctil, c'est confirmé qu'il s'est séparé de Brigitte Drapeau, avec qui il était quand même depuis
30 ans. Ah, gars, j'ai-tu suivi, tu penses?
T'as suivi? Ben, ça? Un peu trop, là.
J'ai tout vu sa maison. Là, j'étais comme, Marimé, elle sépare-tu elle aussi, elle a vendu sa maison? Non, elle a dit non.
Ça, c'est la prochaine. Ça, c'est la prochaine affaire. Bon, mais là, finissons les séparations avant d'aller dans les bonnes nouvelles.
Ça va trop vite.
Il y a Mehdi Boussaïdan.
Je sais pas c'est qui.
Ben, c'est séparé. Ben oui, c'est qui.
Ah oui, je sais qui.
Mais ben voyons, il est dans tout. Là. Il était même au bye-bye. Il est drôle, humoriste, comédien. Ah, il était dans trop. Oui, c'est séparé. Elle s'appelait Marie-Hélène depuis 2015. Ils étaient ensemble sur pas mal de tapis rouges.
Tu vas m'annoncer que c'est avec Laurent Jalbert?
Non, là, j'annonce rien. Oh my God, le rêve.
Je le sais.
L'aime assez. Ça voit. Ah, toi, t'es parti.
Quand t'es parti, en tout cas.
C'est ça. Fait que non. Et pour la dernière séparation, qui date quand même de quelques mois, mais qui vient d'être confirmée, Marie-Chantal Perron. Est de nouveau célibataire.
Encore?
Elle sortait avec un Sébastien Frigon.
À l'air du ravif.
Depuis 2015. Mais heureusement, tu seras contente d'apprendre qu'elle s'en va faire du snorkeling dans le sud fin février avec des chums de filles. Fait que,
oh, ça sent la crise, la cinquantaine.
Ça va bien aller pour elle, je pense. Tout est possible. Quand tu t'en vas dans le sud avec des amis, moi, je pense que c'est tu commences à remonter la pente, là.
Je sais pas.
Non, t'es pas sûr. Non. Ça peut être le début.
Moi, je pense que ça pourrait quand même dégénérer.
OK. Bon, alors allons-y là dans la bonne nouvelle justement dont tu parlais tantôt. Marie-Mé a tenu à rassurer ses fans. Hein,
oui, ben on était très inquiets.
Ben oh, oui, parce que inquiets, comme elle vend sa maison dans les Laurentides.
On était tellement inquiets.
Ben non, mais là, les gens essayent de savoir.
Mais non, juste acheter une trop grosse maison pour son compte de banque. C'est évident.
Tu penses?
Ben oui.
Elle est mise en vente à 749 000.
Elle est vraiment en faisant de Marie-Mé.
C'est quelque chose. Mais ben, je ne sais pas à quel point.
Ben.
Mais selon elle, parce que.
Elle a une grosse hypothèque et un gros chalet.
Mais c'est ça, c'est qu'elle a aussi un chalet dans le nord. Fait que dans le nord.
C'est quoi le point d'avoir deux chalets.
Là, t'as deux maisons en forêt. C'est ça.
Calme-toi.
Comme calme-toi le conifère. Puis là, mais elle disait, cela dit, qu'elle a un enfant, tu sais, qui rentre à l'école bientôt. Ben oui, puis là, elle est comme loin de tout, tu sais. Fait que, en tout cas, selon elle, c'est la raison. Donc,
ben oui, c'est ça.
Il n'y a pas de
choix. J'ai quitté la politique pour des choix familiaux.
C'est ça, exactement. Famille, chalet, en tout cas, bref.
Même affaire.
Ouais. Là, j'avais une nouvelle.
Ce qu'on veut dire, en fait, c'est qu'on la croit pas.
Ben moi, j'accrois.
Pas moi.
Moi, je suis super positive. Moi, je reviens du Togo, tu sais, j'ai vu des choses.
Oui, c'est vraiment feu soir le problème, hein? Hé là là!
C'est ça!
T'as vu des choses, puis là, tu fais le sac de chips.
Ben, franchement. Non, je me sens ennuyée du sac de chips.
Mais
j'envoyais
tu peux pas vivre dans l'ourdeur de la pauvreté tout le temps de même?
Non. Hey, tu savais-tu, là-bas, c'est les élections? Saviez-vous
non,
comment?
On ne savait pas. Ça ne dérange pas vraiment pas pourquoi, ce coin-là du monde, bon. Comme tu sais.
Ben, il y a une dictature, là, plus ou moins. Bon.
Boring.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils coupent l'Internet tout le temps.
J'adore ça!
Non, mais c'est fou!
Ils contrôlent l'information.
J'avais envie d'en parler pendant cette chronique de Potin parce que j'essayais de suivre le monde de Potin.
T'essayais de savoir ce qui se passait à Kim K, t'étais pas capable?
Ben non, j'étais dans le gros blackout togolais parce qu'il y a des élections dans une semaine puis ils sont comme, faut qu'ils passent une mauvaise nouvelle. Bang! Ils coupent l'Internet à tout le monde.
Hey!
Ben non, mais comment je suis supposée suivre
comment
ça?
Comment t'es supposée pour savoir qui va être au Festival d'été de Québec?
Ben c'est ça. Hey. Là, je vous dis ça pour que vous soyez plus conciliant, tu sais.
Pour qu'on y aille pas.
Ben non, mais j'ai l'air de pas connaître tous les potins, mais c'est parce que c'était difficile.
C'était isolé.
Ouais. Sinon, ça, c'est pas un potin, mais on a parlé les effrontés de l'Écosse qui rend ça gratuit, les produits hygiéniques.
Non,
femme. Je suis tellement excitée.
Pourquoi?
Ben, j'ai vu ça passer. Ben, les serviettes sanitaires, les tampons, ils vont
gratis.
Distribuer ça dans les pharmacies. Gratis.
Avec mes taxes.
Avec les, ben, celles des Écossais. Moi, je suis très, très excitée. Je trouvais que ça méritait
d'être. C'est pas juste pour les femmes ménopausées qui ont payé toute leur vie.
Ben là, c'est pas juste.
Je suis bonne pour imiter Ginette, hein, son argument.
C'est pas pire. Fait que ça, c'est réglé. OK, revenons au potin. Là. Une petite histoire cute. Hier soir, à Jimmy Fallon.
Oh.
David Beckham.
Ah, je l'ai.
Mais voyons.
Il est lait.
Ah, tu trouves?
Oui.
Ah non, je trouve pas. Mais donc, il est avec Posh Spice, hein,
Victoria,
depuis 1997.
Hey, ils sont bons, hein?
Ils sont bons.
Leur arrangement marche vraiment bien.
23 ans, si mes calculs sont bons.
En plus, on s'en rend même pas compte quand ils se trompent mutuellement. Ils gèrent vraiment bien ça.
Ben,
c'est ça parfait.
Il y a eu des rumeurs il y a quelques années.
Oui, mais ils ont bien géré.
Tu sais, ça allait mal. Puis ouais, ils ont repris le dessus. Ils ont 4 enfants.
Oui, c'est sûr que ça aide à pas divorcer parce que quand on pense au montant de la pension alimentaire, ça calme.
Oui, mais je sais même pas qui est le plus riche. Lui,
c'est certes David Beckham.
C'est sûrement lui, OK.
Je peux pas décevoir, mais Spice Girls, ça fait un petit bout quand
ça
même.
Ça fait un petit bout. Oui, mais elle est mannequin, femme d'affaires, blablabla. Bla, bla,
ben oui, mannequin, ben oui. Femme d'affaires.
Ben, mais c'est des vraies choses.
Oui, d'accord. Elle fait des parfums, des bijoux, c'est ça?
Je sais pas, pour les bijoux.
Mais en fait, un film, ça sonne ouais. Je suis en faillite.
Mais écoute, là, l'histoire cute dont je veux te parler, c'est que quand ils se sont rencontrés en 97, elle lui a écrit, quand elle a accepté de lui donner son numéro de téléphone,
ça existe encore, ça fait longtemps.
Elle avait écrit ça sur un billet de train parce qu'elle avait pris le train pendant la journée, puis elle y a donné. Et puis là encore...
Bon, ben écoute.
Ben, il a séduit tout le monde en disant ça à Jimmy Fallon hier soir.
Cute.
Ouais, il est cute, c'est ça. Ben, c'est un Brit, là. Fait que là, les gens étaient attendris parce qu'il dit ça avec un accent. Puis,
oh, j'ai fait un transit à Londres quand j'étais à Berlin en fin de semaine et je suis tombée en amour avec 8 Britanniques. Ça n'a aucun sens, ces gens-là.
8 Britanniques.
En même temps.
Qui faisaient quoi?
Ils faisaient rien. Ils faisaient du service à clientèle avec leur accent merveilleux. J'étais comme, je veux te marier, Jason, qui vend du parfum au Duty Free. C'est là que j'étais.
Il était temps que tu reviennes.
Je le sais.
Oh mon Dieu, as-tu des potins?
Des potins de la Britannie?
Non, de Berlin.
Ah, j'ai des potins de Berlin, mais je peux pas te dire un micro ouvert.
Mais voyons,
je t'ai duré tantôt. Je t'ai enverré en DM. En DM, sac de chips.
Ah, mais rien. Il n'y a rien que tu peux dire aux gens.
Non.
Ah ben là, ça, c'est plate. Ça, je suis très déçue.
Mais je suis restée, très déçue. En fait, j'ai beaucoup dormi à Berlin, ironiquement. Je ne suis pas super beaucoup sortie.
Tu n'étais pas dans le Airbnb avec tout le monde?
Non, je n'ai pas voulu, moi, être dans le Airbnb avec 10 acteurs de 22 ans qui fument des joints puis tu sais, qui sortent jusqu'à 6 heures dans les clubs techno de Berlin.
Bon, tu vois, on a déjà
moi, j'ai écouté Love is Blind. Ah, dans ma chambre.
T'es revenu sur tapis rouge, t'as enlevé ton linge, peut-être un film dans une chambre d'hôtel.
Non, j'étais allée manger dans un restaurant turc, puis ils nous ont mis dehors à 1 heure parce qu'on était trop loud, puis j'avais un trop grand décolleté, ça les a traumatisés, pour vrai. Ah, ça, ils m'ont demandé de me couvrir.
Mais voyons.
Je te jure.
Hey, ça pas bon.
Sinon, moi, j'avais des potins.
J'ai adoré ça. Bien fait de
c'est
te
ça,
demander.
C'était pas pire. On a cherché Christianeff pour l'inviter à la première du film, puis on l'a jamais trouvé.
Bon, je suis déçue.
Je suis allée voir le métro Zoo par ailleurs. Très impressionnant.
Le métro Zoo?
C'est le métro qui est célèbre pour dans ce livre-là, dans Christianeff, 13 ans. Je ne sais pas si c'est cette année-là, mais c'est un gros métro super sophistiqué.
Okay.
Je suis allée voir le mémorial de l'Holocauste. Fait que ça, c'est.
Ah oui, ben là.
C'est moins.
Celui avec les cubes noirs?
Oui.
Est-ce que tu te rappelles quand Pink a fait des photos de ses enfants là-dedans? Ça a fait un grand scandale.
Ben moi, j'ai fait des photos, mais ça, j'ai vraiment photos, très fait attention.
Faut faire attention.
Oui. Il y a des gens qui se selfiaient. C'est
ça. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis allée il y a quelques années, puis c'est des photos shoots.
Okay. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Pourquoi il n'y a pas de Kleenex à ce musée-là? Sérieux, tout le monde braille, il n'y a pas de Kleenex. Je me mouchais dans ma manche, puis la madame à côté, puis moi, on cherchait des Kleenex dans nos sacoches.
J'ai donc bien vu personne brailler à cette place-là.
On pleurait toutes, nous, dans la deuxième salle où on peut lire des petites lettres d'enfants. Papa, maman, demain, je serai fusillée.
Ouais.
Hey, c'est la chronique potin. OK, on continue.
Oui, mais c'est des potins de Berlin.
Oui.
Mais c'est parce qu'il m'en reste juste deux, moi. Fait que j'avais du temps. Sarah-Jeanne Labrosse, aujourd'hui, est en pyjama. J'ai vu ça sur Instagram. Je
pour la tempête?
C'est intéressant. Oui, elle passe la journée en pyjama.
On dirait qu'on la voit moins, Sarah-Jeanne Labrosse.
Elle est discrète.
C'est une bonne chose.
Oh, ben.
Non, mais Mané était. Non, moi aussi, je l'aime, mais c'est parce que Mané, elle était comme partout, puis je pense qu'elle était bien à bout.
Ben, elle était comme dans plein d'émissions en même temps, puis là, se sont terminées. Fait qu'effectivement, on la voit un petit peu moins. Elle ne reviendra que plus forte.
On veut qu'elle revienne.
Oui. Et là, je terminerai sur. Ben là, c'était la semaine de Suzy Villeneuve.
Oh mon Dieu. Là, il y a tout un débat.
Là, il y a bien des affaires à dire là-dessus.
Ah mon Dieu, vas-y, il reste 3 minutes.
Ben,
là, quand même, on a l'éternité.
Bon, c'est alors là, pour ceux qui ne sauraient pas, Suzy Villeneuve, une ancienne de Star Academy.
Ça fait 17 ans.
17 ans, en 2003, la jumelle d'Annie Villeneuve.
On voit que je suis mon sac de chips, pas un peu.
Ça. Alors, elle s'est pointée aux auditions à l'aveugle de La Voix. Donc, elle a fait un grand retour devant les projecteurs et elle a été. Toutes les chaises se sont tournées et elle a finalement pris l'équipe de Garou.
Mais je suis que le coach a eu des petites rumeurs.
Des rumeurs, c'est pour ça qu'on est ici, Geneviève.
Sur Garou.
Sur Garou et
elle.
Et elle. Ben, il y avait l'air d'avoir.
Une chimie,
disons ça comme ça. Il était très heureux qu'elle choisisse comme coach. Ben, il s'est lancé.
Peut-être un mariage est à venir.
Ben, je sais pas. Sont-ils en couple, ces gens-là?
Non.
Bon, là, tu vois, c'est
moi juste
là
que je spécule, vraiment. Là, non, je suis dans ta DM.
On est là pour ça. Mais écoute, il y a eu plein de choses à dire. Là, premièrement, les gens se demandent, ah, peux-tu être là? Est-ce qu'elle a déjà eu une trop grosse carrière? Est-ce que ces gens-là ne devraient pas venir
pas
à La Voix?
Pas tant que ça de carrière.
Ben, vraiment pas tant que ça. Puis la règle à La Voix, c'est tu ne dois pas avoir de contrat actuellement avec une compagnie.
Mais à chaque fois que quelqu'un est un professionnel du milieu de la musique, ça fait toujours une petite controverse. Il y a une choriste, il y a eu toutes sortes de monde.
C'est ça, et Geneviève Jodoin l'année dernière,
oui, c'est ça.
Qui avait déjà une carrière. Mais les gens veulent aussi savoir, là, est-ce qu'elle a le soutien de sa sœur jumelle? Sont-ils en chicane? Suzy a
c'est
finalement
laquelle
répondu.
Des deux qui s'est atteint du noir?
C'était Suzy.
C'est ça.
Pour se différencier, elle vend. Ben oui, femme d'affaires.
Elle aussi.
Fait une conférence.
Elle aussi, femme d'affaires.
Oui, mais là, elle est revenue. Là, donc, femme d'affaires artiste qui n'a plus les cheveux bruns. Et soutenue par sa sœur, apparemment, sa sœur lui a dit go, vas-y et amuse-toi. Il y a ça, c'est beau, toi. Fait que là, Suzy, on va lui souhaiter bonne chance.
Je sais pas si je les crois dans leur bonne entente.
Non, mais c'était pas très détaillé les là-dessus, là, mais je vous ai dit tout ce que je sais.
Là, les gens de Jonquière, si vous avez des affaires, là, écrivez-nous.
C'est ça l'affaire, c'est que
moi, j'ai un lien avec
vous,
la filière Jonquière-Oise.
Ben demande.
Ben, je le demande là, je le demande là.
OK, parfait. Hein?
C'est les gens de Jonquière, si vous avez de l'Intel, écrivez-nous.
Mettez-moi en CC.
Écrivez dans la boîte.
Sac de chips.
Sac de chips.
Karine, mais attends, oui? Je veux juste dire que vous irez voir sur le sac de chips. Demain, on a un quiz. Est-ce Annie ou Suzy? Êtes-vous capable de les différencier?
Oh, hey, ça, je. C'est à quelle heure ça va être en ligne que je vais mettre mon cadrage?
Midi demain.
Merci beaucoup. Caroline, j'ai ma fille, on te retrouve jeudi prochain.
Oui.
De notre côté, on se retrouve demain de 1 à 3. Merci beaucoup.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.